السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de vivre ce 16e jour du mois de Ramadan en cette année 1438-2017. C'est là une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal de nous donner la possibilité de jeûner. Ikhwani fillah, akhawati fillah, le mu'min qui vient au mois de Ramadan a parfois l'impression qu'il est en train de vivre le rituel de l'année, le rituel annuel où il y a un décalage dans les heures de repas, où on est un peu plus souvent présent à la masjid, où après la salat de Isha, on accomplit donc la salat de Tarawih, et il y a le repas du suhur qui se prend très tôt, et le iftar, un décalage dans le rythme des repas, une augmentation dans l'intensité des prières et de la fréquentation de la mosquée. C'est là une réalité, hein. On va dire que là on est en train de poser les bases des a'mal, des actions du mois de Ramadan. Mais, ikhwani akhawati fillah, si on pouvait goûter au nectar qu'il y a de ce mois béni, si on pouvait vraiment prendre de nos deux mains, de nos deux bras, et prendre tout ce qu'Allah Azza wa Jal accorde à cette umma durant ce mois béni, ben on en ressortirait vraiment riche. On en ressortirait avec des mizan hasanat, avec notre livret d'actions, tout d'abord extrêmement lourd, rempli de bonnes actions, qui nous seront exposés et qui nous seront avantageux le jour des comptes. Mais au-delà de l'aspect des bonnes actions, des amal, des ribadat, au-delà de ce que nous allons obtenir avec les bonnes actions, on aimerait rechercher quelque chose d'autre dans ce mois béni. Et quand on parle du nectar, en plus ça, au tampon, vous avez d'excellent miel, le propolis, hein, ce qui est le plus pur dans ce miel, c'est vraiment ce qui est accessible à une quantité très limitée de personnes. Ce nectar du mois de Ramadan, c'est ce qu'il y a dans le fond de ce mois, c'est ce qui articule la journée du jeûne, ce qui est l'ossature de la salat al-tarawih, ce qui est à l'origine de la notion de saoum, d'abstinence, c'est la crainte d'Allah, la taqwa, c'est la prise de conscience qu'on a au-dessus de nous, Allah Azza wa Jal, que nous adorons, qui nous voit, que nous voyons pas, qui nous entend, que nous n'entendons pas. On ne sait rien d'autre de notre Seigneur que ce qu'il nous a révélé, mais lui connaît tout de nous, parce que Allah, il est alimum bidat as-sudur, il sait exactement ce qu'il y a de le cœur de chaque personne assise de cette assemblée, les jeunes, les moins jeunes, les anciens, les hommes, les femmes, quels que soient les lieux, sans limite temporelle ni géographique. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a de le cœur de chacun d'entre nous. Et ces cœurs-là doivent se réveiller pour enfin se soumettre à Allah Azza wa Jal. Faire en sorte que autant nous soumettons nos membres, les jawarih, pour Allah Azza wa Jal à travers les actes d'adoration, faisant en sorte que le cœur suit. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'il y a dans le corps de l'homme un mudra, une partie. Si ce mudra, c'est cette partie est pure, mashallah, c'est tout le corps qui va suivre. Mais si cette partie n'est pas pure, alors il y aura un décalage entre ce qu'il y a dans le cœur et la pratique, le sens du hadith. Et que même, les savants expliquent que même s'il y a une pratique qui est correcte, qui semble être conforme à l'enseignement prophétique, mais s'il y a des manquements dans le cœur, alors cet homme-là n'est pas réellement dans le sirat al-mustaqim, de le droit chemin. Cette personne, même si il y a la foi sans le moindre doute, mais n'atteindra pas kamal ul iman, la perfection de la foi. Ikhwani fillah, le iman se trouve où? Mahalluha al-qalb, de le cœur. Et la taqwa qu'on essaie de développer durant ce mois, la taqwa, elle siège où? Elle siège dans le cœur. Et c'est lorsque le cœur sera rempli d'amour d'Allah, de crainte d'Allah, de muraqabatullah, de pensée permanente d'Allah, de ihtisabul ajr, d'attente de rétribution de la part d'Allah, ce qui va donner un sens à chaque subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, à chaque namaz qu'on va faire, ce cœur sera convaincu. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. On a besoin du yaqin, la conviction en Allah Azza wa Jal. On arrive à développer وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Oui, Alhamdulillah, certes c'est toi que nous adorons. Mais on a besoin de développer également وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ, c'est quand je prie, je donne ma zakat, on a compris. Les actes d'adoration, ظاهر apparente. Mais وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ nécessite une connexion du cœur avec Allah. Être capable de s'en remettre à lui complètement. Être capable de lui faire confiance. Être capable d'accepter toutes les situations que nous vivons, qui nous sont envoyées par Allah Azza wa Jal. Être capable de faire le lien entre ce qu'on appelle ayyam ad-dunya, les jours que nous passons sur ce dunya, et les jours de rétribution, yawm ad-din, le jour de qiyam. Beaucoup de croyants sont certainement assidus aux actes d'adoration. Et on n'est pas dans le jugement du tout. Aucunement. Le seul juge, c'est Allah. Personne n'est meilleur que son prochain. Ce n'est pas en fonction de la longueur de la barbe, ni des titres, ni celui qui est hafid al-Qur'an, ni celui qui a la science. Aucunement. Parce que innama yakhshallaha min ibadi al-ulama, ceux qui ont le plus de crainte d'Allah, ce sont les savants, à partir du moment qu'on met en pratique. Autrement, la ilm, la connaissance, se retourne contre nous. Quelqu'un qui connaît le Qur'an par cœur, le prophète me rappelle, al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Ce n'est pas que je suis hafid al-Qur'an, je suis la fierté de mes parents et de mes grands-parents. Mais si je n'ai pas la pratique des ordres d'Allah dans ma vie, ce Qur'an, le jour de Qiyama, témoignera contre moi, nas'alullah, as-salamata wa al-afiyah, qu'Allah nous protège. Donc, ikhwan et fillah, on n'est pas dans un échange d'étalage, étalage de science, de connaissance, de maîtrise, ou longueur de barbe, ou blancheur du kafni, ou l'huile, mais du oud, donc, mashallah, ça vient de Makka, et lui, ainsi de suite. On n'est pas du tout dans tout ça, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Si à l'intérieur, ce n'est pas propre. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nasab. Tout ça, le prophète m'a aboli. Les Quraysh n'étaient pas supérieurs à qui? Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Les Zouama de Quraysh, les chefs de tribu de Makkah, ceux qui sont à l'origine, ceux qui gouvernaient la Mecque, étaient incomparables à Bilal ibn Rabah parce que le cœur n'était pas propre. Bilal ibn Rabah, pas de nasab, pas de richesse, pas de bien, pas de titre, mais amour d'Allah dans le cœur. Ikhwan fillah, Allah Rabbul Izzah dans sa clémence, nous juge souvent selon notre intention. Imaginez une seconde, qu'Allah Rabbul Izzah nous jugeait comme, excusez-moi, l'exemple est décalé. Comme votre expert comptable, il fait votre compte, ou alors l'inspecteur des impôts, il regarde vos déclarations, et c'est au centime près. 1 euro de plus, quand tu dépasses qu'on appelle ça encore le plafond. Tu dépasses un plafond, tu es imposable. 1 euro de moins, c'est bon. Alors qu'il n'y a pas une grande différence entre moi et mon voisin, si ce n'est qu'1 euro. C'est au coup près, c'est au centime près. Imaginez qu'Allah Rabbul Izzah nous jugeait, il avait un hisab shadid de cette façon, que le pécheur, il est sévi immédiatement, et celui qui fait de bonnes actions, on analyse la bonne action, s'il y a toutes les qualités intérieures qui sont remplies, l'action vaut, autrement l'action est rejetée. Qui prétendrait l'accès au Jannah? Vous savez qui pourrait prétendre l'accès au Jannah? Les sahaba, les tabi'in, les atba'i tabi'in, khairul quruni qarni, thumma alladhina, yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ce que les grands savants, les pieux prédécesseurs appelaient ashabul qurun al-mufaddala. Eux, ils étaient, mashallah, ils avaient les qualités extérieures et intérieures, c'était les meilleurs, parce qu'ils étaient proches de l'ère prophétique, ils étaient proches de la révélation, ils avaient l'authenticité de la foi, l'aqida qui est naqiyya sahiha. La croyance était parfaite et les amal suivaient. Sinon, prenez la salat au dhuhr et qu'on devait comparer avec la salat au dhuhr de Omar ibn al-Khattab. Dites-moi, où ça nous va? Est-ce qu'on peut comparer? Il y aura juste l'appellation salat. Mais Allah Azza wa Jalla, de sa clémence, il ne nous juge pas uniquement sur la qualité des actions. Allah regarde notre intention, la pureté de notre cœur. Imaginez le contexte dans lequel nous vivons à La Réunion. Difficulté pour contrôler son regard. Si on devait comparer notre raddul basar, ce qu'on appelle le contrôle du regard, raddul basar, avec ceux des pieux prédécesseurs, est-ce que c'était comparable? Et il y a un exemple qui me revient, Cheikh Abou Bakr al-Jazair, rahimahullah, qu'on a bien Allah fréquenté, qu'on a aimé et qu'on aime, qu'Allah lui accorde longue vie, il était malade récemment, qu'Allah lui accorde longue vie, fit ta'a et al-maut, dans la masjid Nabawi, inshallah. Cheikh Abou Bakr, dans un dars, il avait avoué que de toute sa vie, son regard n'a jamais été trompé par son regard. Il n'a jamais regardé ce qui était haram de toute sa vie. Regardez l'âge de cet homme. Là, on ne retourne pas à l'époque des Sahaba, on est dans les contemporains. Tout le monde a entendu parler de Cheikh Abou Bakr Zahid, j'espère. Donc, si on compare avec notre vécu à nous, on se dit qu'on est battu d'avance. On n'est pas battu d'avance. Parce qu'Allah Azza wa Jal est Rahman Rahim. Allah est clément et miséricordieux. Et Allah va regarder ce qu'il y a de ce cœur. Maintenant, le juste milieu, c'est pas de se dire non plus que j'aime Allah et son prophète. Et ensuite, je m'assois sur ma chaise longue et je bronze au soleil. Et je ne prie pas, je ne lis pas. Non, on a bien compris. On parle avec des gens, mashallah, qui ont un potentiel, un socle spirituel. On a compris qu'Allah regarde notre cœur, mais également nos actions. Le plus important, ce que les savants disent en synthèse de tout cela, fais en sorte de donner le meilleur de toi-même. Fais en sorte de ne rien laisser. Tous les efforts qui étaient possibles, fais ces efforts. Et autant tu peux résister au péché, résiste au maximum. Ne baisse jamais de vigilance. Il faut que intérieurement tu sois convaincu que j'ai fait tout ce que je pouvais pour Allah. En termes de bonnes actions et en termes d'éloignement de haram. Et puis on n'est pas là pour condamner lui, il a fait tel péché, parce que tout le monde est pécheur. N'oublions pas le hadith de lequel le prophète me rappelle que le bani Adam, khatta'un, tous les êtres humains accomplissent des péchés. C'est-à-dire que c'est dans la fitra, c'est dans l'inéité, c'est dans ta nature. Comme tu aimes le mal, hubban, jamma, que l'homme est attaché à ses biens. C'est dans le tabi'a, dans la nature des êtres humains. Nous sommes comme ça. Allah nous a créés comme ça. Mais parmi ceux qui commettent des péchés, des excès, les meilleurs, ce sont ceux qui demandent pardon. Et le pardon, ça vient d'où le pardon? C'est les mains qui demandent pardon, le kaffain. C'est les mains qui se lèvent, qui demandent Allah pardon. Ça, c'est un membre. Quelqu'un qui n'a pas de bras, il peut demander pardon, oui ou non? On est d'accord. Est-ce que c'est la langue et les lèvres qui bougent, qui demandent astaghfirullah, qui demandent pardon? Quelqu'un qui est muet peut demander pardon également. Le pardon trouve son origine du cœur. Complété. Zakarullah. Ceux qui ont commis des excès, le sens du verset, ils pensent à Allah. Quelle est la réaction? Du cœur. Zakarullah. C'est pas les membres qui pensent à Allah, c'est le cœur. Et qu'est-ce qui fait que ce cœur pense à Allah? Parce que ce cœur est soumis à Allah. Zakarullah. Et ensuite, le fa, c'est pour montrer ce qui va en suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut m'aider pour les versets? Zakarullah, fastaghfiru li dhunubi. Le cœur, le voyant, déclenche. Il y a le signal d'alerte au niveau du cœur. Un cœur qui aime Allah. Un cœur qui craint Allah. Mais un cœur qui se trompe. Un cœur qui commet des erreurs. Un cœur qui n'est pas parfait, parce que personne n'est parfait à part le Habib Mustafa, alayhi afdalu salat wa atammu taslim. À part le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est parfait. Un cœur qui se trompe parfois, mais qui, lorsqu'il se trompe, se rappelle qu'il a au-dessus de lui un Seigneur qui le juge, qui est sévère, mais qui est également clément. Et il sait s'en remettre à Allah. Fastaghfiru li dhunubihim. Et là, il demande pardon. Et Allah Azza wa Jalla annonce sa bonne nouvelle. Et qui pardonne si ce n'est Allah? Et ensuite, il y a les qualités du Tawbatul Nasuha qui sont citées, jusqu'à la fin du verset. Quel est le témoin qui s'est allumé et qui a permis aux mu'mines de retourner vers Allah? C'est ce cœur où il y a l'amour et la crainte d'Allah. Ça veut dire qu'ikhwan ya khawati fillah, tout se joue au niveau du cœur. Et ce mois de Ramadan qui a pour objectif la'allakum tattaqoun, développer la piété, atteindre la piété. Et quand on dit développer, c'est sana ba'da sana, année après année, et essayer de devenir plus pieux. Augmente l'amour d'Allah dans ton cœur, la crainte d'Allah dans ton cœur, la vigilance, la conviction qu'il y a le regard d'Allah sur toi. De cette façon, tu vas avancer, akhi fillah, ukhti fillah, même si ton quota de bonnes actions n'augmente pas. Mais si ton iman, ta taqwa augmente, tu es dans le droit chemin. Ikhwan fillah, profitons de ce mois béni. Essayons d'activer, d'augmenter, de progresser dans la taqwa par le biais des a'mal, par le biais des actions que nous accomplissons durant ce mois, et réalisons que c'est vraiment le mois où on doit reconstruire, ou plutôt construire notre relation avec Allah Azza wa Jal, mais on pourrait dire également reconstruire, parce que d'année en année, on a avancé, mais on a reculé au cours de l'année. Durant les 11 mois, nous restons des êtres humains, comme on a dit, avec nos manquements. On avait de bonnes habitudes, on les a un petit peu abandonnées. On avait de bonnes habitudes concernant les péchés, on a baissé un peu de vigilance, mais Allah, dans sa clémence, nous renvoie le mois béni pour nous permettre de revenir vers lui, de lui demander tawba. Et parce que durant ce mois béni, ikhwani fillah, Tahrir Qasam dit wa yahuttul khataya. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Wa yastajibu ad-du'a. Allah exauce les invocations, les du'as. Wa lillahi 'utqa min an-nar wa dhalika fi kulli layla. Chaque nuit du Ramadan, Allah délivre des gens de l'enfer. Et en commentaire, les muhaddithin expliquent, ce sont des ahl al-tawhid. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah de leur cœur, qui prient, qui jeûnent, mais qui à cause de certains péchés étaient destinés à l'enfer pour un temps limité. Et par la clémence d'Allah, durant ce mois béni spécialement, Allah délivre certaines personnes du feu de l'enfer. Trouvons la délivrance du feu de l'enfer. Mais trouvons également le moyen de se défaire totalement des péchés, faisant en sorte que durant ce mois, on arrive à soumettre nos cœurs à Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah, comment soumettre son cœur à Allah si ce n'est par la voie qu'Allah a légiférée? Dans un hadith Qudsi, notre Seigneur révèle au prophète alayhi salat wa salam que le serviteur ne se rapprochera jamais de lui d'une meilleure façon mimmaftaratuhu ilay, que par ce qu'il a alay, que par ce qu'il a révélé, ce qu'il a rendu obligatoire. C'est par les arcanes de l'islam. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le hadith qui me manquait pour comprendre le sens de ma vie. Le hadith que personne ne m'a jamais expliqué et qui enfin crée le déclic. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Retourne vers Salah. Bunya al-Islam wa ala khams. Shahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqam al-Salah. Ce salat qui est le imam de din, le pilier de notre religion. C'est par cette salat que nous allons nous rapprocher d'Allah. C'est par le saum du mois de Ramadan, par le jeûne, que nous allons vraiment créer une connexion avec Allah. Si Allah, Rabbul Izzah, de sa sagesse, de sa clémence, a révélé ces cinq piliers qui doivent être mis en pratique par chaque Ya yuhalladina amanu, par chaque personne qui a la foi jusqu'à sa mort et jusqu'au qiyama, c'est que ces actions-là, ces cinq piliers, permettent à chaque mu'min et mu'mina, chaque croyant et chaque croyante, de faire son cheminement et d'arriver vers l'objectif qui est le contentement d'Allah. Un bédouin. Tout le monde sait c'est quoi un bédouin? Al-Arabu. C'était les personnes les plus compliquées à gérer. C'était la population la plus compliquée à gérer et que le prophète a dû faire avec. On va pas ouvrir cette parenthèse. Les bédouins, les arabes, un bédouin est venu voir le prophète, dit « Ya Rasulallah », sens du hadith, qu'est-ce que je dois faire dans le din? Et c'était ça les bédouins. Ils viennent, ils demandent une question directe. C'est pas comme nous on fait de grandes introductions, d'accord? Direct, pose la question. Ce qui est sur Irfan Patel, il dit qu'est-ce qui va commencer le sujet cette année? Inch'Allah. Il demande « Ya Rasulallah, je veux une action qui me sauve », sens du hadith. Le prophète dit, tes cinq piliers. Et ce bédouin dit, ô prophète d'Allah, j'atteste, je jure que je fais tout ce que tu m'as dit, mais je fais rien de plus. Le prophète dit que si tu les fais correctement, tu rentres au paradis. Et il est retourné en souriant, presque en rigolant, heureux qu'il a eu la bonne nouvelle que ses cinq piliers sont suffisants. Par exemple, Dieu s'arrête, si quelqu'un veut voir quelqu'un du paradis, regardez, il vient de nous tourner le dos, il est en train de partir. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui fait rire ce bédouin? Les bédouins rigolent pas souvent. C'est des gens qui vivent dans la dure, qui ont grandi, qui sont nés dans le désert, qui, pour boire de l'eau, ils doivent faire, subhanallah, des kilomètres. Difficulté. Ça rigole pas un bédouin. Il a été heureux. Pourquoi? Ça, c'était Bouchra. C'est une bonne nouvelle pour lui. Que si tu restes ferme de tes cinq piliers, Allah te promet le paradis. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi, dans le contexte dans lequel nous vivons. On n'est pas dans un désert, mais on vit dans un contexte désertique, spirituellement désertique, où il est difficile de s'accrocher à Allah Azza wa Jal. Si on est à Makkah, à Medina, mashallah, alhamdulillah, il y a ce qu'il faut. Mais dans un contexte comme le nôtre, ce n'est pas évident. Donc, avoir cette bonne nouvelle, que tes cinq piliers te suffisent, subhanallah, comme le bédouin sourit, nous aussi on doit être content. On sait que je reste ferme sur ces a'mal, Allah va m'accepter. Et cette action que nous répétons, bi'idhnillah, que nous accomplissons cinq fois par jour, cette salah, c'est la clé de notre réussite. C'est la clé de notre réussite parce que dans la salah, on a les deux aspects de la pratique. Les a'mal zahir, les actions qui sont apparentes, bil jawarih comme on dit, et les actions qui sont intérieures, ce qu'on appelle a'mal al-quloub. C'est-à-dire que dans la salah, je développe la piété, khashyatullah, hubbullah, subhanallah, muraqabatullah, ihtisab al-ajr, toutes les qualités du cœur, je les développe dans la salah. La soumission à Allah, al-istislamu lillah, qui est la base de la taqwa et qui nous amène vers l'ihsan, vers le plus haut degré de foi. Ce mu'min qui, ya'budullah, il adore Allah, kannaka tarahu, fa'il lam takun tarahu, fa'innahu yarak, ou comme a qu'on a dit, salatu wassalam, tu adores Allah comme si tu le vois. Et tu as atteint un tel degré de iman, que quand tu pries, c'est exactement comme si tu es devant Allah, c'est comme si tu vois Allah, et tu es en train de faire l'ostentation pour Allah. L'ostentation, shirk al-asghar, petit shirk, interdit, devant les créatures. Mais devant Allah, c'est ihsan, c'est le plus haut degré de foi que de montrer notre bonne volonté et de s'appliquer pour Allah, de pleurer pour Allah, de montrer notre dévotion, notre concentration, notre ferveur, notre engagement, notre sérieux, notre régularité dans nos a'mal, dans le tahajjud, pour Allah. Et on montre à Allah, c'est comme si on met sur un plateau, retenez l'image, hein, et on montre à Allah, on dit voilà, ce que je fais pour toi, ya Rab, voilà tout ce dont je suis capable. Ça, c'est ihsan. Et deuxième degré de l'ihsan, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَى, tu as une conviction qu'Allah te voit en toutes circonstances. Et ce mu'min qui est convaincu qu'Allah le voit dans toutes circonstances, jamais il ne ferait un pas volontairement vers le haram. Parce qu'il a le muraqabatullah. Il a la conviction qu'Allah le voit. Celui qui atteint ce degré, خلاص, il est sur le sirat al-mustaqim, il atteint kamal al-iman, il n'a pas besoin de grands discours et ainsi de suite, et lui c'est parti bi-idhnillah, bi-tawfiq min Allah jusqu'à la mort, parce que lui il a tout compris, même s'il ne fait pas dentelle, hein, même s'il ne fait pas être tel intéressant comme beaucoup, il a la foi, il est dans le droit chemin, et lui il avance. Et cette salah, vous allez dire, mais comment est-ce que cette salah, ben, je prie depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis mashallah, madri kamsa, depuis combien d'années? Comment est-ce que cette salah va me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Je fais la salah de dhahar. J'étais à côté de Habib, qui lit le Coran en écoutant. Il est fort, lui, très fort. Les gens de tampon, ils ont toujours quelque chose en plus. Mashallah. Et est-ce que ça m'a apporté quelque chose d'exceptionnel? Oui, ça doit t'apporter quelque chose d'exceptionnel. Je dis oui, même si je fais la salah des Yasudais ou des Yashuraim, je comprends, mon cœur s'emballe et tout. Non, ton cœur peut-être s'emballe parce que la lecture est belle. Mais ton cœur ne doit pas s'emballer parce qu'il lit bien. Si on te met derrière un imam qui lit d'une façon ordinaire, il n'y a personne qui lit mal, hein, une façon ordinaire, ton cœur s'emballe pas. Je dis ben non, parce que lecture, il est un peu comme mon dada, comme mon non, dans Ramadan, il y a comme ça. Donc, ça me fait rien. Ben, il y a un gros problème. C'est que dans ta salah, ton attention, c'est la lecture basse. Dans ce cas, comment tu te concentres dans la salat al-dhahr? Les responsables du comité, il faut dire au imam, lis à fort dans le zahar, au moins il gagne concentration. Il y a des salats qui sont sirris, d'autres qui sont jahri. Hikmah min Allah, sagesse d'Allah, qu'il y a certaines salats qui sont, en guillemets, silencieuses, où on lit à voix basse, et des salats qu'on entend la lecture. Et afala et tadabbarun al-Qur'an, oui. Quand on entend, mais quand vous entendez rien comme de la salat al-dhahr, on fait comment? On change la sharia, abadan wallah. Allah décide que ce soit comme ça. Le mu'min qui a compris, celui qui a eu, fi salatihim khashi'un, de la salat al-dhahr, à la masjid Nour al-Islam de Tampon, il peut se concentrer peut-être plus que celui qui fait au premier rang derrière l'imam, masjid al-haram, derrière Mu'aïq, il est à Makkah ce soir. Du moment que il a développé cette qualité, et chaque instant passé dans la salah augmente son iman. Chaque instant passé dans la salah va lui permettre d'atteindre ce qu'on appelle, ça c'est rare, halawatul iman, la douceur de la foi, où la personne connaît l'exaltation de la foi, comme c'était le cas des sahaba. Alors, ikhwani fillah, alors cela on pourrait décomposer en trois parties. Ça c'est de moi, hein, c'est pas un hadith. Il y a le gestuel, l'aspect extérieur, qiyam, ruku', sujoud, la façon de se tenir, c'est en rapport avec le fiqh, la jurisprudence, les maslah, concernant la façon de poser les mains, la façon de faire le ruku', le sujoud, les coudes ne doivent pas être posés sur le sol, les maslah. Ça, c'est un domaine important. Il y a une deuxième partie, un deuxième aspect, il y a la lecture, le qira'a. Si on ne lit pas, la fin ne compte pas, bien sûr. Si le gestuel n'est pas bon, la fin ne compte pas, on a bien compris. Le qira'a, ça nécessite quelle catégorie de ilm ? Tajwid, un minimum. Un minimum de tajwid pour que on différencie les makharij al-huruf, la prononciation, pour que la lecture reste saine et correcte. Et puis, à l'aspect intérieur. L'aspect intérieur, c'est ce qu'on appelle le khushu', et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal cite de le Coran par première qualité. Qu'Allah cite de le Coran concernant ceux qui connaissent, ceux qui sont parmi les vainqueurs, les gagnants. Qu'est-ce que vous avez lu hier soir ici? Vous êtes un sipara en ce moment? Ou bien vous continuez un incar? Hier, vous n'avez pas lu 18e? J'ai toujours dit, les tamponis ils vont beaucoup plus vite que partout, mashallah. Dans le 18e juz, surat al-mu'minun, Allah Azza wa Jal nous annonce la bonne nouvelle. Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants, ils ont obtenu le falah. Hayya ala al-falah. On appelle vers le succès. Fi dunya wa l'akhirah. Miftah, c'est la clé qu'Allah te donne. La salah. Qad aflaha al-mu'minun. Première qualité. Et quand Allah Azza wa Jal cite muttaqin, muflihun, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal détaille. Soit c'est détaillé avant, et puis c'est clôturé. Oulaika ala huda min rabbihim, jusqu'à la fin. Ou alors, on commence, et c'est cité les qualités. Là, Allah Azza wa Jal commence en annonçant quelles sont les faveurs de ces personnes, al-mu'minun. Allah les a qualifiés comme étant mu'minun, yani mu'minun haqq. Qad aflaha al-mu'minun, première qualité qui a été citée parmi, je ne me trompe pas, il y a à peu près 7 versets qui décrivent les qualités des croyants, dans al-mu'minun au début et un peu au milieu. Première qualité, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui dans leur salat, sens du verset, font preuve de dévotion. Font preuve de dévotion, on pourrait commenter par concentration, ceux qui arrivent vraiment à vivre leur salat. Et après, dans les dernières qualités qui sont citées, concernant leur salat, ala salawatihim yuhafidhun. Ceux qui restent fermes de leur salat, c'est-à-dire qui ne les abandonnent jamais. Deux versets qui parlent de leur salat, mais deux de façon différente. Le dernier verset, c'est être régulier comme nous, alhamdulillah. Mais le premier verset, c'est une autre qualité qu'on doit développer, al-khushu', alladhinahum fi salatihim khashi'un. Et ça, mes chers frères, entre les trois points qu'on a cités concernant la salat, c'est le plus difficile, le plus compliqué. Apprendre masla, c'est simple, c'est accessible, je veux dire. Apprendre le tajwid auprès d'un cheikh, d'un alim, c'est accessible. Mais le khushu', on n'apprend pas à côté avec une personne. Le khushu', c'est un travail que tu fais sur toi-même. C'est un effort qu'on fait sur notre nafs. Ce sont des qualités de iman qu'on doit développer au quotidien pour prétendre atteindre une partie du khushu', et parmi les qualités qu'on doit développer pour arriver au khushu', tout ce qu'on va citer comme règles de dévotion et de concentration dans les différentes positions, ou du moins les positions qu'on pourra couvrir ce soir, cet après-midi, inshallah, ce sont des qualités, mais qui risquent de nous paraître accessibles, mais un peu éloignées. C'est possible, on a compris ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à accrocher. On vous donne pas les solutions, c'est pas que après cette intervention, le temps qui reste, tout le monde deviendra khashi'. Inch'Allah, on a l'espoir. On donne les bases, on explique qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut comprendre telle position, telle lecture. Mais, pourquoi on a dit que c'est difficile? Parce qu'il ne suffit pas d'entendre, ça se limite pas au ilm. Ça nécessite un effort sur soi-même. Et premier effort à développer pour atteindre cette qualité, il y a bien sûr le ilm. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Ce qu'on peut vous donner, on peut. Pas, on ne vous donne rien. Ce qu'on peut partager ensemble, parce que celui qui apprend, qui parle, apprend plus que celui qui écoute, c'est le ilm. Connaître. Connaître Allah. Connaître la grandeur, réaliser la grandeur d'Allah et donner un sens à cette salat. Ça nécessite une compréhension. Ça nécessite yaqeen et ilmul ghaib. Une conviction, pas ilmul ghaib, une conviction sur le monde de l'invisible, sur les promesses d'Allah. Les choses qu'on ne peut pas comprendre, mais avoir une conviction sur tout ce qu'Allah nous a promis. Et y croire, subhanallah, avec une certitude des muttaqin, des pieux. Ça nécessite qu'on ait dans notre cœur l'amour d'Allah et la crainte d'Allah. Comment est-ce qu'on développe l'amour d'Allah dans notre cœur? En faisant passer le droit d'Allah avant notre propre droit. Chaque fois où on fait passer le droit d'Allah avant notre propre droit. Se réveiller à la salat de Fajr, ainsi de suite. Les actions qui sont chaques, qui sont difficiles, on les fait pour Allah. Le cœur, au fur et à mesure, se remplit d'amour d'Allah. Et comment faire entrer dans le cœur la crainte d'Allah? En s'éloignant régulièrement de tout ce qui est haram. Avec prise de conscience qu'on a le regard d'Allah sur nous, comme on a dit dans l'introduction. Et là, le khashyatullah, la crainte d'Allah, s'installe dans le cœur. Et quand on a développé tout ça, quand Allah a vu cette bonne volonté de nous, il y a ce qu'on appelle al-hidayah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. On va essayer de voir dans un instant le sens d'al-fatiha. Il y a deux catégories de hidayah. Cheikh al-Sa'adi, rahimahullah. Qui a entendu parler de al-Sa'adi? Taysir al-Karim al-Rahman. Celui qui a entendu, bismillah, juste qu'on ait une idée. Wahid bas isnain. Thalatha. Trois personnes. Ce livre de tafsir, c'est de l'or. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ça a été traduit en français. Récemment, très récemment, d'accord? On a eu l'occasion de s'en procurer un exemplaire, je vous le conseille. Maintenant, comment ça s'appelle en français, je ne suis pas sûr, mais vous demandez à un bon libraire, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, le tafsir de Saadi, il est costaud, il est lourd, il est gros, il est coûteux, mais là, c'est un cadeau de valeur, ça te permet de te connecter au verset d'une façon simple, à la différence d'Ibn Kathir, qui est complexe, qui est très technique. C'est plutôt un tafsir pour les savants, on va dire, il faut une maîtrise. Parce qu'il y a plein de hadiths, il y a israéliades, il faut avoir la tête sur les épaules. Mais à Saadi, très simple. Donc à Saadi, rahimahullah, qu'il parle de deux catégories de hidayah et de nasrat al-mustaqim, c'est rester dans le droit chemin jusqu'à la mort. Ça, c'est ce qu'on a compris. Mais également qu'Allah te donne la hidayah au quotidien. Que de jour en jour, tu arrives à te rapprocher d'Allah. At-tawfiq. Tawfiq min Allah. Qu'Allah t'accepte. Vous savez le hadith de lequel Allah Rabbul Izzah nous rappelle que celui qui fait un pas vers lui, Allah fait deux pas vers lui. Connais ce hadith. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui. Harwala. Allah vient vers lui en courant. Cette métaphore, ça veut dire quoi? Tu fais un effort. Allah voit la bonne volonté. Allah voit la bonne intention. Allah voit ta motivation. Celui-là, il s'accroche de le mois béni. Il se réveille, il a dit qu'il fait 8 rakat tahajjud tous les soirs. Même s'il est fatigué, il le fait. Il reste ferme. Il a sommeil, mais, mashallah, tu te rapproches d'Allah d'un pas. Allah te rapproche de lui de deux pas. Allah te permet de te rapprocher de lui. Tu n'as pas le droit de faire des gestes pour montrer le comment Allah agit, mais c'est pour qu'on comprenne. Tu fais un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers toi. Babu tawfiq, la porte du tawfiq de l'acceptation t'est ouverte. Et celui qui a trouvé la porte du tawfiq ouverte, subhanallah, il est ala hudam min rabbihim, il est sur le droit chemin. Et comment constituer ce potentiel, ce socle spirituel pour que j'arrive à développer les points du khushu' qu'on va citer? La solution, elle est très simple. Je crois que vous avez lu Qadaf al-Mu'minun hier, mais on reste de ce juz qui est magnifique. Hier, on a eu la visite de Cheikh Mohamed Patel. Tout le monde connaît Cheikh Mohamed Patel. D'accord. Il nous a fait un dar spécial pour les jeunes, un petit cercle privé avec questions-réponses. Et certains de tampons ne sont pas venus. Allah musta'an, ils ont raté. Khair, inshallah. Certains de nos jeunes. Et il nous a fait un parallèle magnifique entre les versets de la sourate An-Nur qui commence par l'interdiction du zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Et également l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Et au féminin, qul wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin. Dieu aux croyants de baisser leur regard. Et au féminin, Dieu aux croyantes de baisser leur regard. Et Cheikh Mohamed nous a fait un parallèle à un tafsir de Miqayyim rahimahullah, dans lequel il cite que la succession des versets, c'est pas un hasard. Il y a une sagesse divine à travers la succession des versets. Et quelques versets, on tourne quelques pages, et il y a le verset très connu, Allahu, page de gauche. Allahu, nuru samawati wal ard. La lumière des cieux et de la terre. On parle du nour d'Allah. Dit que ce mu'min qui se protège du haram, du zina, ce mu'min qui arrive à contrôler son regard et qui fait un effort sur lui, lui il aura hav, il aura mashallah une belle part nasib de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui, Allah musta'an, ne contrôle pas son regard, itlaq al-basar, le contraire du radar al-basar, personne, Allah musta'an, qui regarde sans limite, pas parce qu'il est pervers, ou peut-être un petit peu aussi, sans limite, parce qu'il n'a pas réalisé le regard d'Allah sur lui. Il n'a pas eu la crainte d'Allah de ce qui, la crainte d'Allah n'habite pas son cœur. Celui-là, il n'aura pas cette lumière. Même s'il accomplit les bonnes actions comme nous, mais ce sera, il n'y aura pas cette lumière. Donc, pour réunir les qualités qui nous permettront d'avancer et de développer les qualités du khushu qu'on va essayer d'énoncer, le travail à faire sur soi, c'est un travail au quotidien. Et quand on dit quotidien, c'est pas 30 jours sur 365, c'est 365 sur 365. Ou alors, si vous voulez, 360 est suffisant. Mais sur 360 de l'année islamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où on doit baisser vigilance. Chaque instant, c'est un moment pour Allah. Et là, Allah va t'accepter, il va tellement t'aimer qu'on va trouver cette lumière qui nous permettra vraiment de nous connecter à lui à travers la salat al-dhuhr. Et tu n'as pas besoin d'aller à Arafat. Si tu y vas, mashallah, khair wa ni'ma. Mais à chaque instant de ta vie, chaque prière, tu trouves cette connexion avec Allah. Azza wa jalla. Ikhwani fillah. Avant de démarrer les différentes positions de la salat, je vous dis très clairement, il est impossible de couvrir toutes les positions de la salat. Ou alors il faut le faire rapidement et bâcler les choses que j'ai horreur. Garde un peu pour cette année, peut-être inshallah l'année prochaine. Si Allah nous donne longue vie, inshallah. Je pense que pour être correct et respecter un certain timing, on va essayer aujourd'hui d'aborder Allahu Akbar, Thana, Subhanakallahumma bihamdika, ça s'appelle l'istiftah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-Fatiha, ce qui serait déjà super. D'accord? Amin. Et peut-être le recours. Je pense pas qu'on pourra aller plus loin que ça. D'accord? On a en général combien de temps? Une heure? Faut jamais dire ça. Faut pas dire ça. En général, c'est 90 minutes. C'est comme un. 90 minutes. Inch'Allah. Je sais pas quelle heure j'ai commencé par contre. Rien, Inch'Allah. Donc, avant de démarrer par le takbir, pas le thana, le takbir, Allahu Akbar. Il y a un hadith qui nous interpelle. Depuis qu'on a lu les versets du Coran sur les fourmis et tout, on ne veut plus tuer les fourmis, c'est embêtant. D'accord. Quand depuis qu'on a fait le tafsir de Wama min da'abatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, je me demande où est son mustaqarr et où est son mustawda'. C'est bi 'ilmi Allah, donc on va le laisser tranquille. Donc, dans un hadith du prophète Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, de lequel le prophète sallam nous enseigne. Et il y a certaines choses qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui. Sans prétention, je ne suis pas là pour vous apprendre. Mais il y a des choses qu'on ne connaissait pas, on trouve une solution pour apprendre. Et de nos jours, il y a des choses, il y a des moyens qui sont faciles. On va essayer d'apprendre deux doigts ensemble au moins, ou trois doigts. Et les doigts, si on n'arrive pas à les mémoriser, je dis que ouais, je ne suis plus dans cette phase d'apprentissage et tout. Mais on mémorise plein de choses dans la vie de tous les jours, mais azkar, il faut essayer. On peut télécharger sur notre portable. Comme Tamir Fan qui est sur le portable depuis le début du programme, inchallah. Et on peut avoir sur notre portable. Et qu'à chaque fois qu'on doit mettre cette action en pratique, on allume et on peut lire. C'est bon aussi. Hadith ibn Abbas, radhiyallahu anhu, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, kharaja ila salati, wa huwa yaqul prasam, en allant vers la salat, il avait entendu le prasam lire, Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura. On va traduire au fur et à mesure, plutôt que d'attendre le doigt à cette minute. Allah, ya Allah, remplis mon cœur de lumière. Le verset qu'on a dit tout à l'heure, Allahu nuru samawati wal ard. Et chacun a besoin de prendre un quota de cette lumière qu'Allah envoie. Et là, le prophète demande, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Allah remplit mon cœur de nur, de lumière. Et le prophète lit ce doigt en allant vers la masjid. Et les savants en commentaire, si on commence à ouvrir les portes des commentaires, subhanallah, c'est pour vous montrer toute la richesse du ilm. Toute la richesse et le travail qui a été fait par ses pieux prédécesseurs, ceux qui ont commenté les versets du Coran et les hadiths. Et ça nous montre également que on ne connaît rien à notre niveau. Et que وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Chouïa, bas, tout petit peu Allah nous a donné. Et quand on voit Bab al-Ilm, comment la connaissance est immense. Et comment la connaissance de parfois ceux qu'on maîtrise, les versets qu'on connaît par cœur, si j'avais une maîtrise de ces versets, ça m'ouvrirait des porte de spiritualité extraordinaire. C'est d'une certaine façon une da'wa pour aller vers le ilm. Au-delà de notre programme, du thème, quel que soit le thème, quand on fait, quand on dit, les savants disent en commentaire, c'est pour ouvrir nos adhan, notre esprit sur la beauté et la puissance de la connaissance religieuse. Connaître un hadith par cœur, on a des enfants à la madrasa qui apprennent les hadiths par cœur. Je ne dis pas comme des perroquets, hein, parce qu'ils apprennent la traduction, le sens également. Que nous-mêmes, on a des souvenirs de hadith de la madrasa. On a des souvenirs de nos sourates qu'on a appris, au moins depuis Wadduha jusqu'à Anas, ce qu'est le programme dans la plupart des madrasas. Mais connaître, c'est quelque chose, mais maîtriser, savoir la beauté, le nectar, le mu'min intelligent, c'est celui qui va chercher en profondeur. Si ne serait-ce qu'on avait une maîtrise des 10 sourates al-fil jusqu'à al-fatiha, subhanallah, on aurait un autre degré de iman et de concentration et de dévotion. On serait un autre homme, un autre mu'min. Ikhwan fillah, faites le niya d'aller vers le ilm, la connaissance religieuse. C'est impossible dans le contexte dans lequel nous vivons. Avec autant de fitna, on n'entend que ça. Les gens disent oui, mais de nos jours, les difficiles, et puis comme avant, les compliqués. Comment on va m'y travailler sans emprunte avec la banque? Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Mais il faut faire mal parfois. L'intérêt, à une époque, d'accord, mais de nos jours, Doukane, comment il travaille? Pas garak. Il faut avoir une franchise. Ah, quand un mounagé est franchise, c'est comme Firdausul A'la min al-Jannah. Il a eu la franchise, il est heureux, il est content. Il est devenu l'esclave de celui qui t'envoie le stock, et si tu ne vends pas, il retire où? Tu restes assis et tu n'as plus rien. Khair, Inch'Allah. Oui, Moulissab, comment on peut dire l'intérêt? Comment on peut dire qu'il emprunte plus avec la banque? Vous ne connaissez pas où vit dans ma sidou? Oui, dans ma sidou, mange dalle, mange. C'est peut-être ça notre vie, je ne sais pas. Hein? Mais, je ne sais pas comment les gens perçoivent notre vie. Mais, ce mu'min qui n'arrive pas à comprendre, qui n'arrive pas à aller de l'avant, c'est que son cœur est bouché. Son cœur est fermé. Même s'il a un rituel qui ressemble aux nôtres, mais son cœur est fermé, il n'a pas la compréhension parce qu'il n'a pas goûté au nectar, à la lumière qu'il y a de l'ilm. Et du coup, ceux qui restent, Allah m'a dit les péchés qui ont du mal à pratiquer, si seulement leur cœur s'ouvrait au ilm, subhanallah, ça ferait de nous d'autres mu'mines. On revient, sinon on va aller. Allah m'a demandé donc, Allah m'a dit, Ali fi qalbi nur. Et les savants disent que oui, ce fameux sharh, quand une personne va dans Bayt min buyutillah, une maison d'Allah. Chaque masjid est une maison d'Allah. Masjid al-Haram à Mecca, Masjid al-Nabawi al-Madina, Masjid al-Aqsa, ce sont les maisons d'Allah, tout comme la Masjid Nour al-Islam du tampon, le dia de Saint-Denis, la même moquette, la Masjid Nour al-Islam du tampon, c'est une maison d'Allah, quel que soit le lieu de prière. Bayt min buyutillah. Quand tu vas dans cet endroit, sache que tu vas dans le meilleur endroit au monde. Oui ou non? Sahih wa illa? Sans le moindre doute. Et tu reçois la meilleure des invitations qui vient d'Allah, qui t'invite dans une de ses maisons. Vous invitez n'importe qui chez vous? Abadan. On invite les gens qu'on aime. Et donc, aller vers la masjid, ça nécessite une condition spirituelle qui dépasse n'importe quel déplacement, qui dépasse n'importe quel déplacement et n'importe quel mouvement. C'est pour ça que le prophète nous a enseigné ce doigt. Quand tu y vas, sache que tu vas obtenir, que tu peux obtenir des choses énormes. Donc, avant de commencer l'action, demande à Allah Azza wa Jal. Et d'une façon générale, dans les durous, dans les programmes de préparation spirituelle, au mois de Ramadan, on rappelle toujours, fixez-vous des objectifs et dès maintenant, depuis le mois de Rajab Sha'ban, وليكتب دمني اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Demande à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, donne-moi tawfiq de faire telle action. Ya Allah, cette année je veux faire ça. Ya Allah, cette année je veux contrôler mon regard totalement. Ya Allah, cette année j'aimerais purifier mon argent de tout ce qui est haram et prendre un nouveau départ. Tu n'arriveras à rien sans l'aide d'Allah. Aucun progrès dans la religion. فعل الطاعات أو ترك المنكرات que soit l'accomplissement des bonnes actions ou l'éloignement du haram إلا بتوفيق من الله tant qu'Allah ne te donne pas la possibilité de le faire. Donc précède tes efforts par la demande الدعاء. Demande à Allah de te guider, de t'accepter, de donner la possibilité de le faire. Le prophète nous donne cet exemple qui est magnifique en allant à la masjid, et pourtant le prophète a-t-il besoin de la lumière? Subhanallah, Ashraful makhluqat, celui dont les pas sont guidés par Allah, celui qui ne commet pas d'erreur. وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى. Tout ce qu'il dit, c'est de la part d'Allah. L'homme le mieux guidé de l'histoire de l'humanité. Il demande à Allah. Parce que le mu'min a toujours besoin de demander à Allah, quel que soit notre niveau. Et pour que cela soit un enseignement pour nous également. Allah m'a dit, فِي قَلْبِ نُورًا. Allah remplit mon cœur de lumière. وفي لساني نورا et ma langue de lumière. وجعل في سمعي نورا, que mes oreilles soient remplies de nour, de lumière. وجعل في بصري نورا, les yeux. وجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. Oh Allah, mets la lumière devant moi, derrière moi, au-dessus, en dessous, que je sois entouré de lumière. Vous voyez que les positionnements. Et Allahumma a'tini nura, donne-moi de la lumière, ya Allah. Doua que le prophète faisait en allant à la salah. Et les muhaddithines disent, un grand professeur qui s'appelle Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, grand spécialiste de aqidah ajib, niveau mustawa al-ilm extraordinaire, il a dit que dalil ala mashru'iyyati qawli hadha ad-du'a 'inda at-tawajjuh ila al-masjid. Ce hadith montre qu'il est masnoun, qu'il est sunna de lire ce du'a en prenant le chemin de la masjid. Pourquoi? Parce que dans un hadith rapporté par Imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que was-salatu nurun, la prière est une lumière. Est-ce qu'on savait que la prière est une lumière? Nous, on savait que la prière, c'est qiyam, ruku', sujud, iqu'ud et salam. Position de la salah. Mais au-delà du gestuel, comme on a dit, l'essentiel de nectar, c'est quand le prophète dit que la salah, c'est une lumière. C'est-à-dire, dans la salah, tu peux puiser une lumière qui vient d'Allah Azza wa Jalla. Salatu nurun. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam rappelle, celui-là rapporté par le musulman Imam Ahmad, man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz alayha, jusqu'à la fin du hadith, celui qui reste ferme sur ses prières, c'est-à-dire toute sa vie, Allah lui accorde la lumière le jour de qiyamah. Vous voyez la notion de lumière de la salat? La salat est une lumière. Reste, autre hadith, reste accroché et tu auras une lumière qui te guidera le jour des comptes. C'est-à-dire que tu accomplis tes salats régulièrement et correctement, tu seras bien guidé le jour des comptes et tu obtiendras le succès. Et voyez maintenant le prophète, lorsqu'il part à la salat, il lit ce dua, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, jusqu'à la fin du dua qu'on a lu, et demande à Allah cette lumière. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience avant d'accomplir l'action. Tu te connectes avec Allah par le biais de cette action, qui est un wasila, qui est un intermédiaire qui te permet de te rapprocher d'Allah. Mais réalise qu'est-ce qu'Allah donne de cette action, et réalise qu'est-ce que tu dois prendre, et comprends quelles conditions tu dois réunir pour le prendre correctement, pas superficiellement. Il y en a qui effleurent cette lumière, qui effleure, qui le regarde, qui le contemple, mais il y en a qui le prennent et qui s'en imprègnent et qui s'enrichissent et qui avancent et qui progressent. Une salat nous permet, subhanallah, de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam lisait ce doua. Et permettez-moi notre parallèle également. Vous voyez, cette compréhension des actions qui dépasse l'accomplissement des actions. Quand le prophète sallam, là on remonte la pendule à moins deux mois, quand le prophète sallam, moins un mois, lorsqu'il explique qu'il jeûnait presque tout le mois de Sha'ban, pourquoi est-ce que le prophète sallam jeûnait presque tout le mois de Sha'ban? Hein? Parce que le prophète sallam explique que c'est le mois durant lequel les actions sont présentées à Allah Azza wa Jal. Et il veut que lorsque ces actions sont présentées à Allah, ils soient en état de jeûne. Ça nous montre l'action en elle-même qu'on accomplit de façon rituelle et bu'd an-nazar, cette compréhension du sens de l'action et pourquoi je l'accomplis afin de le faire correctement. Quand tu as compris l'objectif, tu as automatiquement la sincérité et tu t'appliques. Tu jeûnes au mois de Sha'ban parce que tu réalises que mes actions sont présentées devant Allah, donc je m'applique. Tu t'appliques dans la salat parce que tu réalises que c'est une occasion unique d'obtenir ce nour et donc tu le fais correctement. Si déjà pour préparer notre salat on peut lire ce doua en venant à la masjid, en comprenant le sens, c'est déjà une première étape. Après il y a d'autres points, c'est ce qu'on appelle les muqaddima de la prière et la préparation, faire le wudu chez soi, venir à pied, faire des salats, des sunnah rawatib. Ça rejoint un autre programme qu'on a fait la semaine dernière concernant les préparations pour la salat, pour développer la concentration. Et le nectar, c'est celui d'aujourd'hui, bidnillah, c'est la concentration à travers les adhkar, à travers la lecture de la salat. En commentaire, les savants disent également tayaqqan, réalise et sois convaincu que durant cette salat tu peux obtenir cette lumière, donc applique-toi quand tu accomplis cette salat et réalise que ce n'est pas uniquement un pilier, ce n'est pas uniquement une obligation, mais c'est un lien que tu construis avec Allah 5 fois par jour. Hada. Lorsqu'on commence la salat, et je passe le nid, hein, on va directement à la salat. Lorsque je commence en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est le dhikr qui est prononcé, ce qu'on prononce le plus dans une vie, oui ou non? Consciemment ou inconsciemment? Ou au moins qu'on entend le plus dans une vie? Avec la salat, avec le adhan, le iqama, et la salat d'ailleurs le imam, et la salat qu'on lit, qu'on fait nous-mêmes. Le takbir, Allahu Akbar, c'est le dhikr que le mu'min prononce le plus dans une journée. Qui peut me donner le sens de Allahu Akbar? La traduction. Akhifillah. Allah est le plus grand. On est d'accord? C'est le sens. Allahu Akbar, Akbar c'est le superlatif de Kabir. Allah est le plus grand. Maintenant, si on essaie de décortiquer, de comprendre qu'est-ce que je dois ressentir en prononçant Allahu Akbar. Dire Allahu Akbar avec la langue, c'est maqloub. C'est ce qu'il faut faire. C'est takbiratul ihram pour que la salat compte. Mais dire avec la langue et le ressentir avec le cœur, ça c'est mamdouh. Ça c'est quelque chose d'élogieux. Et c'est là qu'on distingue les vrais. En commentaire du takbir, huwa ta'zim ar-rabb tabaraka wa ta'ala wa i'tiqad annahu la shay'a akbar wa la a'zama minhu. Quand tu prononces Allahu Akbar, de ton cœur réalise que Allah est au-dessus de toi, Allah c'est le plus grand et rien ne peut être comparé à la grandeur d'Allah. Fa yusharu duna, et tout ce qui est en dehors d'Allah azza wa jall doit à cet instant te paraître insignifiant. C'est-à-dire que humum ad-dunya, tout ce qui te préoccupe de ce dunya, tout ce qui te fait réveiller à 8 heures pour aller travailler, tout ce qui te fait faire des heures supplémentaires, tes projets d'agrandissement, de construction, tes dettes, tes problèmes, tout ce qui envenime un peu ta vie, tout ce qui te détourne du dhikrullah, réalise que tout ça, ça n'a aucune importance maintenant devant ce que je viens de prononcer, devant la grandeur d'Allah, et que toutes les créatures qui paraissent être importantes dans ma vie, je ne parle pas de temps en route, mais les gens qui te donnent l'impression d'être important, ils ne sont pas importants, qui te donnent l'impression d'être grand, d'être fort, d'être influençable et dont tu dépends d'eux, tu as besoin d'eux, ils réalisent que tout ça, ils sont sérieux, ils sont petits, infiniment petits devant ce que tu viens de dire, devant la grandeur d'Allah. Ce Allahu Akbar doit être un électrochoc pour ton cœur, ça doit être la transition entre les, en guillemets, les réalités du dunya et ce que tu es en train d'accomplir, cette connexion avec Allah, où tu réalises qu'Allah est le plus grand et qu'en dehors d'Allah, rien ne compte et rien n'est important. Certes, après la prière, il y a d'autres choses qui deviennent importantes. La famille, le travail, kasbul halal. On ne dit pas qu'il ne faut plus rien faire, dire Allahu Akbar. Tu m'as dit toute la vie. Ah ben non, on a bien compris ce que je veux dire. Mais là, quand tu commences ta salat, quand tu dis Allahu Akbar, cette réalité doit être ancrée dans ton cœur et te faire oublier tout ce qu'il y a autour, comme on vient de l'expliquer. Et réalise que fahu alladhi khada'at lahu ar-riqab. Et que c'est celui devant qui tout le monde se rabaisse. Que même les plus grandes guillemets de ce monde se sont rabaissés et que c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. واستكانت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. Toutes les créatures se soumettent à ses ordres et toutes les créatures dépendent de lui. Et donc quand tu dis Allahu Akbar, tu affirmes la grandeur d'Allah, tu réalises sa puissance, tu réalises ta petitesse à toi, comment tu n'es rien, et tu te dis que toutes les créatures se soumettent à lui. Et ana khalqun min khalqik. Je suis une de tes créatures, ya Allah. Et j'ai l'honneur de dire que tu es le plus grand. Et tu m'acceptes pour le dire. Sois reconnaissant. Ce cœur doit être rempli de reconnaissance. Et en même temps de ta'zim, de grandeur d'Allah Azza wa Jal. Quand je commence en disant Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa salam avait expliqué à une personne une fois. Ya Adi, ma yufirruk, qu'est-ce qui te fait fuir? Est-ce que le fait qu'on dise « La ilaha illallah », c'est ça qui te fait fuir? Est-ce que le fait qu'on dise « Allahu Akbar », c'est ce qui te fait fuir? Et il a demandé de poser deux questions. « Fahal ta'alamu min ilahin illallah ?» Est-ce que selon toi, il y a un autre Dieu à part Allah? Il a posé une autre question. « Fahal min shayin akbaru min Allah ?» Est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'Allah? Et la réponse est claire. Les muhadithines disent que ce hadith doit nous permettre de travailler sur Allahu Akbar, réalise de ton cœur qu'il n'y a rien au-dessus d'Allah. On est tous conscients. En tant que mu'min, on réalise que le plus grand c'est Allah, c'est le Khaliq, et tout ce qui est en dehors de lui, ça s'appelle Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ay kullu ma siwa Allah. Tout en dehors d'Allah, c'est Al-Alamin. Et Allah est au-dessus. Allah est le plus grand. Donc, fais ce ta'zim. Réalise qu'il n'y a personne plus grand, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne au-dessus d'Allah. Et donc, de cette façon, ressens la grandeur de celui devant lequel tu te mets debout et devant qui tu vas te prosterner et faire le rukou, la génuflexion. Réalise également qu'il est impossible de comparer quoi que ce soit ou quiconque à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et là, on avait quelques hadiths, mais ça risque d'être un peu long. Et on va passer sur ces hadiths. Un hadith qui nous rappelle que la grandeur de ce dunya, exemple, par rapport au premier ciel, il y a une métaphore. C'est comme khatm, quelqu'un prend une bague et il jette fi falat min al-ard. Il jette cette bague dans un champ vaste. Si on adapte la métaphore avec le contexte local, prenez l'alliance, prenez votre bague, kalam ulama de l'alliance aussi, hein. Prenez votre bague et jetez dans un champ canne, un carreau canne. Ça représente quelque chose dans un hectare de canne. Tant pis, on n'a pas trop canne. Allez, côté Saint-Marc, peut-être qu'il y a aussi. Allez, des endroits grands, je ne sais pas combien d'hectares. Vous jetez une bague, déjà pour retrouver, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, c'est pire encore. La métaphore, elle est énorme, elle est percutante. Ça me dit que ce dunya et tout ce qu'il contient par rapport au premier ciel, c'est comme la bague que tu jettes dans falat min al-ard, un terrain vague. Et attention, la métaphore, elle continue de ciel en ciel. Le premier ciel par rapport au second ciel, même métaphore utilisée par le présent. Ça te dit, à un moment donné, tu dois t'arrêter. Parce que ça dépasse l'entendement. Coco, il bloque. Coco, il chauffe, comme il dit. Il peut vous vaisseler le coco dessus. Ou mettre un samoussa, un ami cuit tout de suite. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter la réflexion. Parce que ce sont des hadiths, des termes qui nous décrivent l'au-delà, mais avec mesure. Et tant qu'on n'a pas atteint un degré de spiritualité, on ne peut pas encaisser ça. Ça va paraître tellement extraordinaire. Et vous savez, qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire que tout ça? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Qu'une nuit de ibadah vaut mieux que 1000 mois. Une nuit, tu restes en adoration, Allah te rétribue plus que 1000 mois. Ça fait combien de... 1000 mois, ça fait près de 80 années, si je ne me trompe pas. Ajib, une nuit, 80 années. Je dis que non, c'est extrapolé, c'est un exemple. C'est abadan. C'est pas extrapolé, c'est pas une métaphore, c'est haqiqa. C'est la révélation qui vient de Al-Karim. Savions-nous qu'Allah est Al-Karim, qu'Allah est généreux, généreux de sa rétribution. Et pour peu d'efforts, Allah nous accorde énormément, parce qu'Allah est rani, Allah est riche, et son trésor n'a pas de limite. Si l'humanité se réunissait pour demander à Allah tout ce qui est possible, si moi j'appelle un délai à Madrasa, dit demande-moi 10 choses, gay pas. Il demande à vous 10 choses, il va demander à vous 12 end spinners différents, le Batman, le Iron Man, toutes les séries limitées et tout. Ensuite, il va te demander le PlayStation, le PSK, financièrement et impossible pour un enfant, un être humain, même si tu as, mashallah. Hadith Qudsi, dans lequel il rappelait que si l'humanité se réunissait pour demander à Allah tout ce qu'il voulait, tout ce qui est possible, imaginable, et qu'Allah leur accordait tout ce qu'ils avaient demandé du premier au dernier, exactement, celui qui a demandé des palais en or, en diamant, en pierre précieuse, ça ne diminuerait en rien le trésor d'Allah. Que comme si qu'une personne trempe une aiguille dans la mer, il en retire quelle quantité d'eau, sans du hadith, a-t-il retiré de l'océan? Métaphore percutante également, pour qu'on réalise le trésor d'Allah là, comment Allah est rani. Donc ce Laylatul Qadr, ça nous permet de comprendre comment Allah subhanahu rétribue. Ce hadith nous permet de réaliser comment est-ce que la création d'Allah, elle est exceptionnelle, extraordinaire, et qu'aucun cerveau humain ne peut comprendre ou essayer de contenir. Et en parallèle, les savants, en déduction plutôt, disent que maintenant, réaliser que c'est Samawat et Al-Aradin, c'est la création d'Allah, c'est Kun Fayakun. Maintenant, imaginez la grandeur du Khaliq, celui qui a tout créé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Et donc là, réalise que tu te tiens devant le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'on obtient quand on dit Allahu Akbar? C'est un dhikr, oui. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'Allah a choisi 4 paroles. On pourrait dire en or, 4 paroles pour nous. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Man qala, celui qui dit un de ces adhkar, kutiba lahu 20 hasana, wa huttad anhu 20 sayyi'a. Wa man qala Allahu akbar, fa mithlu dhalik. Pour chaque fois que tu dis subhanallah, ou alhamdulillah, ou Allahu akbar, la ilaha illallah, et Allahu akbar, et donc ce qui nous intéresse, le takbir de la salah, quand tu dis Allahu akbar, il y a 20 bonnes actions qui sont greffées de ton livret de compte. Hadith d'Imam Ahmed. Il y a 20 péchés qui sont enlevés de ton livret de compte. En disant, Allahu Akbar. Maintenant, les ulama disent, imaginez le nombre de takbir qu'on dit en une journée, subhanallah. Réalisons déjà qu'est-ce qu'Allah est en train de nous accorder. Donc, en plus de la reconnaissance, en plus du ta'zim, de cette sensation de grandeur, comment Allah est grand, qu'on réalise la grandeur d'Allah, il y a cette reconnaissance et cette motivation quand on fait la salat, on réalise tout ce qu'on est en train d'obtenir. Maintenant, si on va un peu plus loin, à la fin, le mu'allif, il a compté combien de fois une personne va dire Allahu Akbar, d'ici quelqu'un, mashallah, est régulière dans ses namaz faraz, parce qu'on compte 22 Allahu Akbar dans une salat à 4 rakat et 11 Allahu Akbar dans une salat à 11 rakat. Si quelqu'un se limite aux 5 aux cinq faraz, Fajr, Asr, Maghrib, Isha, sans faire les sunnah, ça lui fait déjà 94 Allahu Akbar dans une journée. Et multiplié par 20 bonnes actions, par 20 péchés enlevés, subhanallah, regardez uniquement le premier mot de la salat, au-delà de ce que ça doit nous apporter, ça doit éveiller en nous, ce qu'Allah nous accorde déjà sur le plan quantitatif en termes de hasanat et de péchés enlevés. Allah seul sait combien de péchés nous avons dans notre livret de compte. Et que chaque péché, le jour de Qiyamah, aura son pesant dans la balance. Imaginez vos 5 salat. Si, je vous laisse calculer, je suis pas très fort en maths, 20 fois 94, ça doit faire pas mal. Ça fait 940 fois 10, ça doit faire... On est dans les 2000 à peu près, un peu plus, péchés enlevés dans une journée. Moufid, est-ce qu'on n'a pas tout à gagner? Sans le moindre doute. Et là, on réalise, quand le prophète a dit qu'une personne qui prie ses 5 salats, c'est comme une personne qui prie de sa maison un fleuve qui coule. Et s'il prend un bain 5 fois par jour, pensez-vous qu'à la fin de la journée, il y a encore de la saleté ou de la crasse sur le corps de cette personne? Abadan, jamais 5 bains par jour. Et là, on réalise que la salat nous lave de nos péchés uniquement. Là, on a dit Allahu Akbar, sans parler des autres vertus, des différentes positions ou des autres adhkar. Deuxièmement, le prophète salatu wassalam, une fois, s'était adressé aux sahabas, il a dit « Khudu junnatakum » Prenez vos armures, munissez-vous de vos armures. Les sahabas disent « Ya Rasulallah, min aduwin qad hadar » Ô prophète d'Allah, y a-t-il une armée ou des ennemis qui est là, prêts à nous attaquer? Le prophète dit « La bal junnatakum min an-nar » قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات إلى آخر الحديث. On m'a dit que non, il n'y a pas d'ennemi. Prenez vos armures, protégez-vous contre le feu de l'enfer. نسأل الله العافية. أرضوا القرآن قو أنفسكم وأهليكم نارا. Protégez-vous et protégez vos proches de l'enfer. Frère Zahm dit, protégez-vous de l'enfer. Les sahaba, ils ont demandé de quelle façon. Frère Zahm a dit, lisez, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et Allahu Akbar. Parce que ces adhkar viendront le jour de Qiyamah pour nous protéger contre le feu de l'enfer. Les 94 Allahu Akbar de la journée. Et si la personne, subhanallah, est régulière de ses sunnahs également, on arrive jusqu'à à peu près 360 Allahu Akbar dans une journée. Le nombre de bonnes actions, le nombre de péchés effacés. Et comment est-ce que cela nous protégera le jour de Qiyamah? On réalise tout ce qu'Allah nous accorde uniquement à travers le Allahu Akbar. Pour ça, me dit également, Inna mima tadhkuruna min jalalillah. On va lire les hadiths en français pour aller plus vite. Ce que vous faites comme adhkar et takbir, tasbih, takbir, tahlil et tahmid, les 4 adhkar, ces adhkar montent aux cieux et tournent et restent auprès du trône d'Allah. Hawla al-arshi lahunna dawiyun kadawiyin nahli. C'est comme le bruit du butinement de l'abeille, comme l'abeille butine. Il reste autour du trône d'Allah et تَذْكُرُوا بِصَاحِبِهَا et il rappelle le nom de la personne Irfan, Abdullah, Akrama, Ibrahim, Muhammad, Ishaq, ceux qui ont fait le dhikr. Et en conclusion du hadith, le prophète me dit أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ مَنْ يُذْكَرَ بِهِ. Vous ne souhaitez pas, n'aimez-vous donc pas avoir la possibilité que votre nom soit en permanence cité auprès du trône d'Allah? N'est-ce pas là un grand honneur? Et cet honneur, c'est pas celui qui fait le dhikr régulièrement, même si on n'est pas un grand dhakir, on ne fait pas 1000 fois les adhkars de la journée, mais le fait de dire Allah Akbar, soit Allah Akbar, nous citera auprès du trône d'Allah Azza wa Jal. Hadith de lequel le prophète alayhi salatu wa salam rappelle, il dit Bakhin, c'est qu'on avait ça en français, onomatopée, c'est un, de lequel le prophète dit, wa ashara biyadihi. Le Prophète a dit, enfin, c'est un mot qui exprime l'étonnement. Le Prophète s'était étonné de cinq actions qui vont peser ma athqalahunna fil mizan, qui seront très loin de la balance du jour des comptes. Et le Prophète a cité les adhkar qu'on a dit tout à l'heure. Et parmi ces adhkar, Allahu Akbar. Maintenant, ces 400 Allahu Akbar de ta journée, comment est-ce que cela seront lourds, vont peser dans notre balance? On voit tout ce qu'on gagne dans la salat. Et bien inconscient. Ce croyant qui a l'intention de faire ses salats uniquement durant ce mois, et qui après le mois de Ramadan, pour lui, c'est un retour à la vie normale, et il retournera à la mosquée ou le Jum'a Abbas. C'est inconscient. Déjà, le manquement par rapport à l'obligation, on parle pas des adabs aujourd'hui, pas de châtiment et tout, mais tout ce qu'Allah nous accorde, comment est-ce qu'on peut laisser passer tout ça par notre négligence qu'Allah nous protège. Le Prophète dit également, cinquième hadith, on s'arrêtera sur le hadith pour les vertus d'Allah Akbar. Le Prophète dit que, il y avait des sahabas, des pauvres, Anna Unas, des personnes, parmi les sahaba, des personnes qui étaient démunies, qui étaient venues voir le Prophète, dit, ya Rasulallah, il y a les personnes qui sont aisées, ils se plaignent un peu des riches. De nos jours, les pauvres se plaignent des riches, mais à propos de quoi? Dans notre travail, arrête, voilà nous, si nous veut gagner, nous, si on a le droit, ne l'est pas plus, ne l'est pas moins. Discours qui se tient. Quand un pauvre envie un riche, c'est pas sa richesse en général. Ah, il roule dans gros loto, il est heureux, il y a une grande villa, de l'eau belle pierre, il y a une piscine, il y a ainsi de suite. Et nous, Abida HLM, quand un pauvre se plaint d'un riche, en général, c'est par rapport à la richesse. La jalousie, c'est par rapport à ce qu'il a et ce que lui, il n'a pas. Les sahaba, ils se plaignaient de ces riches. Mais de quelle façon? Dit à Rasulallah, ces croyants riches, mais ils obtiennent tout de la part d'Allah. Yusalluna kama nusalli, ils prient comme nous on prie. Yasumuna kama nasum, ils jeûnent comme nous on jeûne. Et là, ce que nous intéresse, le shahid, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Et en plus de tout ce que nous faisons, eux, ils font aussi, ils donnent le monde. Alors que nous ne pouvons pas donner le monde. Ben, donc ils ont tout gagné. Ils sont les premiers auprès d'Allah. Et au commentaire, ils se disent, voyez quelle était la préoccupation des sahaba. Voyez qu'est-ce qu'il est préoccupé. C'est pas que lui, il est riche, il a un chameau à poil roux. Lui, il a telle chose. Ça, wallahi l'azim. Pour les sahaba, ça traversait même pas leur cœur. Ça ne leur faisait rien. Parce qu'ils avaient la conviction que Allah il est muqassim al-arzaq, c'est Allah qui donne le rizq, c'est Allah qui a tout prédestiné et qu'on n'aura rien de plus que ce qui est écrit dans notre rizq. Du coup, quand il voit la personne qui a plein de bienfaits, il dit barakallahu fik, Allah te donne la bénédiction, Allah te protège. Mais il n'y a rien dans le cœur qui naît en termes de jalousie ou d'envie, aucunement. Mais là on parle du niveau des sahaba, ce qui n'est pas notre niveau, Allah musta'an. Et donc il dit qu'ils ont tout eu au prophète d'Allah. Et en plus, ils font la sadaqa alors que nous, on n'a pas, on ne peut pas accomplir cette bonne action. Mais ils seront les premiers devant Allah et nous, on sera derrière. Le prophète me dit que ne vous ai-je pas appris une action par laquelle vous avez donné le monde également? Chaque fois que tu dis subhanallah, chaque fois que tu dis Allah Akbar, c'est écrit comme une sadaqa, comme une aumône pour toi. Et vous voyez tout ce qu'on obtient également maintenant en termes de sadaqa, de aumône, lorsqu'on accomplit la salah. Ikhwani fillah, ce takbir, il y a un tel symbolisme derrière le takbir, une telle valeur, que la plupart des actions du din sont accompagnées du takbir. Dans le hajj également, le verset Faïda Fattou Min Arafat, tous les versets de faire le takbir, lire le nom d'Allah Azza wa Jal, de l'adhan, dans l'iqama, de l'iqama, en commençant la salah, dire que c'est un dhikr. C'est le dhikr qui se trouve le plus souvent, c'est le dhikr le plus présent dans les arcanes de l'islam, dans les actions de la religion. Et après, il y a certains points qu'on peut aller au-delà pour gagner un peu de temps. La conclusion de Allah Akbar, du sens de Allah Akbar, ça c'est une parole qui est magnifique. Ça m'en dit que quand tu as réalisé la grandeur d'Allah, quand tu as réalisé ta soumission auprès d'Allah, par rapport à ce takbir, Allahu Akbar, quand tu as réalisé la reconnaissance que tu dois avoir envers Allah qui te permet de dire Allahu Akbar, ben là tu dois réaliser que tu es en train de parler du Seigneur des mondes, et cette parole doit être accompagnée maintenant du amal, de l'action. Comment al-amalu bi Allahu Akbar, ils appellent ça al-amalu bi at-takbir. Comment mettre en pratique ce takbir? C'est en se soumettant à lui. Tu as prononcer clairement, tu l'as dit, et tu as ressenti de ton cœur la puissance, la grandeur d'Allah. Maintenant, mets ça en pratique en te soumettant à lui. Ça, c'est al-amalu bit-takbir, c'est mettre le takbir en application. D'où le verset dans la Je ne sais pas dans quelle sourate, sourate Al-Isra, 15e juz, « Wa kabbirhu takbira »« Ay, azzim rabbaka, ya Muhammad, bima amaraka, an tu'azzimahu bi » Fais l'éloge, fais les louanges d'Allah, glorifie ton Seigneur comme il t'a demandé. Là, on est d'accord, on a compris. Mais en commentaire, il dit également, c'est le commentaire de Jam' al-Bayan, mais « wa ati'ahu fima amaraka wa nahak » Kabbirhu takbira, fais les éloges, les louanges d'Allah, mais obéis ton Seigneur dans ce qu'il t'a ordonné et dans ce qu'il a rendu haram. Ça, c'est le sens profond du takbir, le dire, le ressentir, mais également mettre en application ce takbir. Donc déjà, si on a réalisé la puissance du Allah Akbar, je vous assure, on fait un plein d'Allah Akbar rapidement, on commence, on prend conscience du poids et de l'importance de te dhikr qu'on fera dans chaque position. Chaque position de la salat est accompagné du takbir, à part le sami Allahumma al-hamida, on verra peut-être dans un instant pourquoi. Et donc ça doit être cet électrochoc spirituel qui doit naître, prendre conscience que, et là quand tu dis Allah Akbar debout, c'est que tu te soumets à lui, tu t'engages à rester immobile et à te soumettre à ses ordres dans cette position. Quand tu vas dire Allah Akbar pour le rukou', quelle est la seule position où on est totalement immobile dans la salat, où il est impossible de bouger les membres, on va dire les membres majeurs? C'est le rukou'. Quand on est debout, on peut se gratter, ainsi de suite. Quand vous êtes dans le sijda, un moni peut jeter son pied. Il y a des gens qui grattent leur pied, ce qui n'est pas bon. Hein. Le pied qui quitte le sol, c'est mauvais. Mais quand tu es dans le rukou', c'est comme si tu es blindé, tu es scindé, tu es comme un angle, comme ça, et tu es bloqué. Quand tu es dans le rukou', tu ne peux pas lever le bras parce que c'est tes bras qui pèsent sur tes genoux, qui te permettent de poser ton dos et les pieds qui touchent le sol, heureusement, d'accord. Et tu ne lèves pas la tête aussi, cette position. C'est-à-dire que tu es vraiment coincé d'une certaine façon. C'est vraiment la position où tu ne bouges pas. Il n'y a que les lèvres qui bougent pour Allah Azza wa Jalla. Donc quand tu vas faire le rukou', tu vas dire, tu vas ressentir cette soumission à Allah dans cette position. Et le summum, là on dépasse les étapes, hein. on suit plus le plan parce qu'il faudra arrêter bientôt. Quand tu vas dans le sujoud, dans la prosternation, fais-le avec amour. C'est comme si c'est le dessert de chaque rak'at. C'est la récompense de chaque rak'at. Tu as fait les louanges d'Allah debout. Tu as fait les louanges, tu as récité la parole d'Allah. Tu as fait les louanges dans cette position shaq, difficile, qui est le recours. Tu as fait les louanges d'Allah et tu as affirmé sami Allah min hamida, qu'Allah a entendu exaucer celui qui a fait ses louanges. Maintenant que tu vas dans le sujoud, tu te jettes littéralement dans la prosternation. Et pourquoi tu te jettes dans la prosternation? Tu te jettes dans la soumission devant Allah. Et tu vas dire subhana rabbi al-a'la dans la position où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la gratification, c'est la grande récompense, et c'est la position également où l'homme est le plus proche d'Allah et où les doigts ont le plus de chances d'être acceptés. C'est pour ça qu'on dit que c'est la récompense de chaque raka'at, ça, le sujoud. Donc quand tu as dit Allah Akbar, ça faisait une reconnaissance qu'Allah te permet de faire la prosternation. Voilà donc quelques éléments pour le takbir. La position debout à l'qiyam, les ulama expliquent, idha qumta lis salat tadhakkar, réalise que tu es debout devant Allah et réalise la grandeur d'Allah. Là on ne peut pas aller trop loin dans les explications. Réalise la grandeur d'Allah et que tu dois te tenir immobile debout devant lui, et que c'est là une chance immense qu'Allah donne à ceux qui l'aiment. En allant salat tarawih hier soir, plutôt en allant, même en retournant aussi. Il y a c'était samedi. Il y a plein de mouvements en ville, d'accord? On voit ces personnes, même de la salat, on entend les gens, ils passent près de la masjid avec la musique et tout. On sait bien, ils vont danser, ils vont en boîte de nuit, ils vont ainsi de suite et tout. Et là, subhanallah, tu réalises que, ben, il y a des gens qui vont faire plein de choses de leur vie. Ils ont d'autres objectifs, ils ont plein de niyas, ils ont d'autres centres d'intérêt. Mais il y a des personnes qui, durant toute leur vie, ne se prosterneront même pas une fois devant Allah. Et là, tu te dis, nas'alullah al-afiya. Il dit, alhamdulillahi ala ni'mat al-iman. Alhamdulillahi ala ni'mat al-islam. Louange à Allah qui m'a fait mu'mine. Louange à Allah qui m'amène dans ma mosquée malgré mes imperfections, malgré mes défauts, malgré mes péchés et tout. Mais Allah me tient de ma maison. Il a mis la ilaha illallah dans mon cœur, et que ce front se pose devant Allah. Ça, c'est ni'ma min Allah. Réalise comment Allah nous gratifie. Et donc, quand tu es debout, sache que ça, c'est fadlu min Allah. Allah est en train de t'honorer. Allah t'a choisi parmi ses khalq, parmi sa création, pour te mettre debout devant lui. Sache que cette position-là, qiyam, qui est la position la plus longue de la salat, oui ou non? Sans le moindre doute. Par exemple, une fois commencé la salat de la nuit, sahaba s'était joint à lui, il a lu Al-Baqara, Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa. Ça fait combien de sipara, subhanallah? Ça fait combien d'heures debout, soumis devant Allah? Mais quand le prophète, il est debout devant Allah, qu'il lit le Coran, c'est pas comme nous. C'est pas la vitesse TGV. Tout le monde connaît TGV. Tarawih, grande vitesse. Non, le prophète, à chaque verset où il y a des du'as, il demandait à Allah. Chaque verset où il y a mention du adab, de l'akhirah, de jahannam, il demandait protection. Ce prophète vivait ça, cette suqiyam. Cette position debout devant Allah et cette lecture, subhanallah. Donc réalise que quand tu es debout devant Allah, ça c'est fadlum min Allah. Que tu sois debout devant Allah, devant la Kaaba, ou dans la Masjid Nabawi, ou la Masjid Al-Aqsa, ou dans la Masjid du Temple, ou quel que soit l'endroit, cette position c'est sharaf. C'est déjà un ni'ma de la part de ton Seigneur. Et si on allait un peu plus loin, si on monte de grade dans le khushu', essaie de développer cette sens à ce sentiment d'ihsan, comme si tu es devant le trône d'Allah. Et Allah t'observe devant son trône. Vous savez qu'on soit devant le trône d'Allah ou qu'on soit ici. C'est pareil pour Allah. Allah est sami', basir et alim bidat as-sudur. Quel que soit l'endroit où on est, Allah nous voit, Allah nous entend et Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc réalise qu'Allah est en train de t'observer. Ne te dis pas qu'Allah me voit, parce que voir, c'est pas suffisant. Réalise qu'Allah est en train de t'observer. Chaque parole, chaque fait, chaque geste, chaque haraka, mais également chaque pensée, Allah est en train de scruter ton cœur. Et même si au même moment il y a 39 millions de personnes qui à 18h20 en train de faire la soirée de Maghrib avec le décalage horaire, Allah observe chacune de ses créatures avec la même intention. Parce qu'Allah c'est le Seigneur des mondes et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et là, si tu réalises cela, assurément de ton qiyam, si on réalise cela de notre qiyam, on reste concentré. Et on ne se laisse pas envahir par des gestes excessifs. Prendre ça, toucher ça, gratter, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on fait plein de gestuels dans la salat? C'est quand il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de concentration. Je ne parle pas d'un élément extérieur, hein, une mouche, je ne parle pas de ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester droit, immobile, comme le sahaba, c'était un hadith, en description, on parle des oiseaux parfois qui se posent sur les pales de sahaba, quand il prie parce qu'il est resté immobile comme un arbre, subhanallah. Et c'est des heures, subhanallah. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester immobile? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, et là c'est ce qui blesse le plus, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester concentré derrière la lecture du imam? Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. On ne doit pas prendre comme, on ne doit pas se justifier ou trouver comme excuse. Mais ceux qui connaissent l'arabe, ils se concentrent dans la salat. Mais on ne connaît pas l'arabe, nous, Ben Bichar, on connaît un Gujarati, Urdu, le mental. Et nous comprenons, on ne connaît pas l'arabe. Normal, on ne peut pas se concentrer. Abadan. Le qiyam, c'est une prise de conscience que tu es devant Allah. Le qiyam de la salat al-dhahr. Mais ceux qui connaissent l'arabe, de salat al-dhahr, comment ils se concentrent? Ce n'est pas une question d'entendre ou non. Ça, c'est un plus. La lecture te permet d'arriver à un autre niveau qui est at-tadabbur, fala yatadabbaruna al-Quran. Et ça, on pourrait essayer de voir avec Al-Fatiha. Mais le simple fait d'être debout, normalement, tu dois développer cette concentration et cette prise de conscience que tu es devant Allah Azza wa Jal. Et deuxième prise de conscience, là, on monte encore de grade, hein, là, c'est par étapes. C'est quand tu es debout, là, essaie de t'imaginer debout devant Allah qui est en train de faire ton hisab. Hadith Prophète Sam explique que le jour des comptes, chaque personne sera appelée par son nom et le nom de son père. Et en commentaire, les savants disent, essaie de te rappeler quel est ton nom et le nom de ton père pour réaliser que c'est ce que tu vas entendre. Si par exemple tu t'appelles Ibrahim et que ton père s'appelle Abdullah, sache que le jour de Qiyama, il y aura un i'lan qu'on appelle Ibrahim ibn Abdullah. Et que tu seras amené seul devant Allah Azza wa Jal. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman, personne, pas d'intermédiaire. Et qu'Allah te posera des questions étape par étape, chaque action. Ça commence depuis que tu étais baligh. Ça va remonter depuis 1980, 1975, 2004, jusqu'à ta mort. 75 ans, 80 années de amal, action bonne ou action mauvaise. Chaque point sera exposé. Et ça c'est... qu'Allah nous accorde hisab en yassira, qu'on n'ait même pas à répondre de nos actions, qu'Allah nous agrée, nous envoie de le jannah, inshallah. Mais les ulama disent que réalise, ça c'est une position qui est écrasante le jour de qiyam. Mais quand tu es debout, sache que un jour viendra un qiyam devant Allah, mais pas pour la prière, mais un qiyam de hisab, un qiyam pour rendre des comptes. On s'arrête, inshallah? Hein? En fait, il y a thana, subhanakallahumma, mais ça nécessite un peu de temps, mais moi, j'aimerais que on voit 5 minutes al-Fatiha. Parce que Fatiha, c'est ce qu'on lit le plus souvent. Et c'est rukn. Hein, c'est une obligation. Donc, le thana, vous pouvez avoir la traduction. Les thana, c'est les louanges. Il est interdit de faire les louanges de quelqu'un. Il est interdit de faire l'éloge excessif de quelqu'un. D'accord? Le Coran avait dit qu'une personne qui est vantée, une personne à sa présence, dit que vous pourrez jeter de la terre sur son visage. Fais pas, comme il dit en créole, passe sa peinture. Passe sa peinture court. Non, une expression, hein. Des gens, quand ils ont besoin de quelqu'un, disent, ah ouais, ouais, bon, pour m'y connaître, ou quelqu'un, machallah. Ça, on a le cœur de la main, ça. Ça, son papa, Allah Akbar. Si tu jouais canette avec mon grand-père, quoi, il a besoin de monnaie? Il a besoin de monnaie. Combien? Pas besoin, passe toute couleur peinture, corona, puis je sais pas quelque chose, ne fais pas la main corona, mais toutes les mains qui existent. On ne fait pas de louange de quelqu'un. Ça, pas besoin de, comme il dit tout à l'heure, on ne fait dentelle. Il n'y a pas besoin de faire dentelle. D'accord? Et l'homme le plus digne, c'est Az-zuhdu amma fi yadinnas. Izhad amma fi yadinnas, uhibbukannas. Fais en sorte, comment on peut traduire ça? Izhad amma fi yadinnas, ne demande rien aux gens. Je sens la traduction. Ne dépend de personne. Fais en sorte que tu n'as pas besoin de te courber devant quiconque. Demande rien. N'emprunte pas. Demande pas. Demande plein de services. Demande rien du tout. Ne te rabaisse pas, c'est pas une question de fierté, d'orgueil. Idha sta'anta, l'envoi de Ibn Abbas, idha sta'anta fasta'in billah. T'as besoin de quoi que ce soit, demande à Allah. Ça, c'est izza du mu'min. Et quand on parle de liberté, égalité, liberté de l'homme, c'est pas uniquement tu es libre, le statut, ainsi de suite. C'est que ton cœur est libre. Vole comme un papillon. Puis je dis pas le reste. Ton cœur est libre. Ton cœur est libre, tu n'as besoin de personne, tu es rattaché à personne. Donc, on n'a pas besoin de parler en plus les gens, de rappeler les... Le seul devant qui... Maintenant, si on fait plaisir à ses parents, oui. Ça, c'est reconnaissance. À son épouse, oui. À une femme, ça, c'est reconnaissance. Il a révélé. Maintenant, devant Allah, vas-y, étale. Étale. Parce que quand devant les gens, quand on étale, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. D'accord? Mais devant Allah... Oublie tout ça. Il n'y a pas de réserve. Dis à Allah tout le bien que tu penses de lui. Enfin, d'une certaine façon. Dis à Allah tout ce que tu connais de bien de lui. Et la meilleure façon de le dire, c'est à travers la formulation de le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba dit, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence la salat avec, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. C'est la formule la plus complète pour faire les thana. Ça veut dire quoi, thana? C'est les louanges, les éloges. La formule la plus complète pour faire les louanges. Avant de lui demander, dis-lui tout le bien que tu peux dire de ton Seigneur, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Ça fait vraiment résumé, le thana. Et puis, vous allez approfondir, inshallah. Quand tu dis, a'udhu billahi minash shaitan rajim, demande protection contre shaitan. Pour qu'il ne te perturbe pas dans la salat, pour qu'il ne t'éloigne pas du droit chemin. Et puis, à d'autres points. Quand tu dis, bismillah, rahman, rahim, abtadi ou, je commence par le nom d'Allah, tu demandes à Allah de t'aider, tawfir, pour accomplir l'action correctement et développer les qualités. Tu n'arriveras rien seul, comme on a dit, bismillah. Bismillah. N'importe quelle action que tu veux dans ta vie, bismillah. Tu démarres ta voiture, bismillah. Quelle que soit l'action que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas, commence par le nom d'Allah parce que tu demandes à Allah de te venir en aide dans ce que tu vas accomplir. Donc, en commençant cela, tu demandes à Allah son aide. Et Al-Fatiha. On s'arrête à Al-Fatiha. À 15h, Inch'Allah, c'est bon. 15h, petit goûter, on commence à mettre le couvert, Inch'Allah. Al-Fatiha, c'est ce qu'on lit dans machin, toutes les rakans. C'est les versets les plus extraordinaires du Coran. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque mu'min mémorise Al-Fatiha. Chaque mu'min ne mémorise pas forcément le Coran. Mais chaque musulman connaît Al-Fatiha parce que ça c'est rukn, c'est une obligation liée dans chaque rakan. Le prophète, on vous citera un hadith, hein, Qudsi. Prise de conscience que la Fatiha que je lis dans la salat, c'est un autre niveau. Et en quoi ça m'engage et qu'est-ce que j'obtiens? Ce n'est pas juste une récitation. Moi, ce que j'aime pas, enfin, et puis je ne critique personne, mais là légèrement, l'imam qui lit Taravi vite. Ahri, tu es passé sur plein de choses. Tu viens de réciter ce qu'il y a de plus important et ce qui va nous enrichir. Attends! Ne le récite pas comme une leçon. Ne récite pas ça comme un rituel. Adab, au moins, respecte ce Fatiha. Respecte ce qu'Allah nous a révélé. Parce que sache, ô mu'min, que le prophète alayhi salat wa sallam nous a enseigné. Yaqulullahu azza wa jal. Allah dit, hadith Qudsi, qassamtu salat bayni wa bayna abdi nisfan. Hadith ajib, hadith azim, hadith que tout musulman qui accomplit la salat doit connaître. Allah azza wa jal annonce que il a divisé la salat en deux, entre lui, entre Allah et ses serviteurs, et ses serviteurs, abdi. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah, le Seigneur des mondes, ou le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal Réponds. قال الله سبحانه حمدني عبدي. Mon serviteur a fait mes louanges. Réalise qu'Allah répond à chacune de tes phrases. Et que même si on est, encore une fois, 50 millions à lire Fatiha en même temps, à cet instant T, Allah répond à chacune de ces personnes. Fatiha, c'est ajib dans la salah. Et donc, applique-toi, fais-le avec amour et avec prise de conscience. Vous voyez quand, excusez-moi, je sors du sujet, mais quand on va à Madina, qu'Allah nous amène vers la Masjid Nabawi, fadl min Allah, ni'ma min Allah. Quand, en explication, les savants dans les groupes de Hajj Umra expliquent que quand vous êtes devant la tombe du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous lisez salat wa salam alayka ya Rasulallah, Allah Azza wa Jal permet au Prophète de répondre à ton salam. Ça fait chaud au cœur, ça non? Ça c'est fort, ça non? Et du coup, quand tu t'approches, tu passes depuis Bab Salam, tu avances, et tu réalises, tu penses, je connais plein de roues et tout, mais ce qu'il m'a dit, c'est impressionnant. Le Prophète me répond à mon salam. Moi, Ibrahim, en 2017, à Saint-Denis-La Réunion, je vais là-bas, il me répond, et qui suis-je pour obtenir une réponse personnifiée et personnalisée du Prophète sallam? Et là, on se rend compte qu'on fait qadar, comme on dit, de ce salami, de ce ziyara, comme on dit. On réalise que c'est énorme, ça, ce que je chante. Qu'Allah m'amène vers la maison, vers le Prophète sallam, et dit salat wa salam alayka rasulallah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce que vous trouvez des gens qui font n'importe quoi? Si, il y en a, malheureusement. Selfie, wallah musta'an. Ça, c'est jahl al-umma. Ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un normal, quelqu'un qui a adab, minimum de respect, de adab. Il est devant la tombe du Prophète sallam, même s'il reste pas longtemps, et puis il n'y a pas resté longtemps aussi. Il faut lire et avancer. Mais tu réalises que Al-Nabi sallam répond à ton salam et tu sens des frissons, tu dis que c'est énorme ce que j'ai en train de vivre là. C'est exceptionnel. Et tu réalises encore plus. C'est bien parce que tu as quitté ta maison, tu as fait 6000 kilomètres, tu as payé cher des groupes qui font des prix extraordinaires avec des profits, mashallah, et tu es venu jusqu'à là. Et tu réalises que là, tu prends conscience que c'est ajib ce que tu viens de faire. Mais réalise que dans ta salat tous les jours, 5 marrat fil yom, bal, kul raka, chaque raka de ta salat, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal te répond, Hamidani Rabbi. Wa idha qala al-abdu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond, Athna alayya abdi. Quand on dit le très clément, le très miséricordieux, Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. Idha qala al-abdu, Malik yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal répond, Majjadani abdi, mon serviteur m'a honoré. Et quand maintenant qu'on va dire, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ça c'est divisé en deux. Allah Azza wa Jal répond, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Le Iyaka na'bud, c'est le droit d'Allah, wa Iyaka nasta'in, c'est le secours qu'on trouve auprès d'Allah. Et jusqu'à la fin, il dit la salat al-mustaqim, la demande, le dua, guide nous vers le droit chemin, salat al-ladina na'amta alayhim, description du droit chemin, et ghayr al-maghdoubi alayhim, protection contre les autres chemins. Allah Azza wa Jal dit, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ça c'est pour mon serviteur, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il a demandé. Et qu'est-ce que tu as demandé? Le droit chemin, salat al-mustaqim, subhanallah. Et qu'est-ce que tu as demandé? Protection contre l'égarement, contre l'ignorance, contre l'arrogance qui a détourné les autres, ou même du droit chemin. Donc, quand tu lis le Fatiha, même si notre tajwid n'est pas parfait, réalise qu'Allah te répond. Allah n'attend pas que le qalqala soit parfait, que le idhar, que le ikhfa, que l'idram soit à jour. Celui qui peut, du jawid, il peut améliorer sa lecture, mashallah, khair ni'ma. Celui qui n'arrive pas, le Prophète n'a-t-il pas dit que celui qui lit avec difficulté, il a ajran? C'est pas que si tu sais pas lire, lis pas, béadab. Lis pas parce que tu vas dire des mauvaises paroles, tu vas transformer le Coran. Non! Tu n'arrives pas trop à lire, tu t'es reconverti depuis 2 ans, 3 ans, tu as du mal, lis quand même, Allah te récompense 2 fois plus parce qu'il y a l'effort que tu es en train de faire pour lire. Mais donc quand on lit ce Fatiha, ikhwan fillah, qu'on réalise qu'on est en train de lire quelque chose de ajib et qu'Allah nous répond. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, réalise que toutes les louanges reviennent à Allah, Rabbil Alamin, et réalise le Alamin et Allah c'est le Seigneur de ce monde. Et toi tu es debout devant le Seigneur du monde et tu es en train de le supplier, lui demander et lui demander protection contre les choses qu'on va énoncer. Tu es en train de faire les louanges de ton Seigneur. C'est pas un tafsir, ça c'est une traduction accélérée. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu rappelles qu'Allah, oh Allah, tu es clément, miséricordieux. Par exemple, hadith, il voit une maman qui tient son bébé et il y avait un feu, dit, oh sahaba, pensez-vous une seconde que cette maman peut prendre ce bébé et le jeter dans le feu? Ça ne dit jamais au prophète d'Allah. Par exemple, il dit, sachez qu'Allah nous aime plus que cette maman aime son bébé. Allahu Akbar. Les savants disent que le plus haut degré de hub d'amour dans le monde humain, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Oui ou non? Que ses enfants soient reconnaissants un jour. Allahumma amin. Et l'amour d'Allah pour sa créature, pour son serviteur, ça dépasse l'amour de cette maman pour son bébé. Donc quand tu réalises comment Allah t'aime, comment Allah a pitié de nous, ben, tu dis que Ar-Rahman, Ar-Rahim, avec l'espoir, oh Allah, tu es clément, tu as dit que tu es clément, miséricordieux. Je me tiens debout devant toi, j'ai besoin de ta clémence et j'ai besoin de ta miséricorde. Quand tu dis Malik Yawm al-Din, là on passe à des choses angoissantes. Tu es en train de citer le pire des jours. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. C'est le moment effrayant de la résurrection. Tu es en train de penser autour de Allah, le hisab, l'enfer, les comptes et ainsi de suite. Et là, tu dois trembler en disant Malik Yawm al-Din, ce jour terrible pour lequel je prie, pour lequel je me prépare, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est le Malik, qui est le Malik, qui est le maître du jour de la rétribution. Et j'ai besoin qu'il ait Rahman, Rahim, qu'il ait pitié et miséricorde pour moi en ce jour de rétribution. Tout est dans les mains d'Allah. Par exemple, dit personne n'entrera au paradis par ses actions, si ce n'est par la clémence d'Allah. Vous connaissez le hadith ? C'est-à-dire, même pas toi, au prophète d'Allah dit, même pas moi. C'est par sa pitié qu'Allah nous donne le paradis, pas par nos actions. Donc, tu as besoin de mettre en avant qu'Allah est Rahman Rahim pour que le jour de Qiyama, Allah ait pitié de nous. Allah a envoyé une partie de sa rahma de ce dunya et qui gère le dunya depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Et 99% de sa rahma, c'est le jour du qiyama. Qu'Allah nous accorde sa rahma, le jour des comptes du jour du qiyama. Ensuite, là, tu vas dire, Iyaka, Iyaka, Iyaka al-hasr. Uniquement toi. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illahu. Al-hasr, uniquement toi. Iyaka, c'est min adawati al-hasr. Tu montres que uniquement toi, qu'on adore, il y a Allah, et c'est uniquement auprès de toi qu'on trouve secours, qu'on trouve refuge. Et là, les savants disent, dis-le, affirme que tu es le serviteur d'Allah. Donc, on a été créé pour l'adoration d'Allah. Dis clairement, ya Allah, ana min ibadik a'buduk. Je fais ton adoration par le biais de cette salat et monte ta soumission. Le abd, c'est celui qui se soumet à lui, qui l'obéit. Monte ta soumission à Allah Azza wa Jal. Le nombre de regards qui se portent vers l'horloge, on va accélérer, inshallah. Wa iyaka nasta'in. Qu'Allah nous donne le plaisir de raddul basar, contrôler le regard. Wa iyaka nasta'in. C'est auprès de toi que je trouve le secours et le refuge. D'un côté, il y a le ibadah, de l'autre côté, c'est tout ce qui est dans le cœur. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes Allah. Tu as peur de quelque chose, tu demandes Allah. Le corps qui se soumet à Allah, mais également le cœur qui s'en remet totalement à Allah. On a besoin de quoi que ce soit, on sait, s'en remettre à Allah. Et là, il y a les demandes. Ihdina. Ihdina, guide-nous vers le droit chemin. Ihdina salat al-mustaqim. En détaillant, c'est quoi le salat al-mustaqim? Salat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qui ont obtenu ta grâce, le chemin qui ont obtenu tes bienfaits, ceux qui ont réussi leur parcours dans Walladi Dayarsha, notre Rabb nous révèle Inna sa'yakum la shatta. Il y a différents parcours, il y a différents tracés. Il y a ceux qui font les bons choix, ceux qui font les mauvais choix. Et Inna al-Sirat al-Mustaqim, c'est le Sirat al-Ladhina an'amta alayhim min an-Nabiyyin was-Siddiqin wash-Shuhada'i was-Salihin. C'est le chemin des prophètes, des pieux. C'est ce chemin-là. Tu demandes à Allah, guide-moi vers ce chemin. Qui les a guidés vers ce chemin? C'est Allah. Et donc tu te présentes devant Allah, donne-moi le même cheminement que ces personnes, ya Allah. J'arriverai pas de moi-même si c'est pas toi qui me mets dans le droit chemin pour arriver vers le même chemin que ces personnes ont suivi. Et là, les savants disent que Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est le doua de ta vie. C'est avancer de le dîn et mourir avec la ilaha illallah Muhammad Rasul. N'est-ce pas là le souhait de chaque mu'min? C'est le désir de chaque personne, mourir avec la ilaha illallah Muhammad Rasul. Et la pire des choses, c'est de reculer de la religion. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège de perdre un peu de la lumière du iman, ou de perdre confiance en Allah, ou de reculer de la foi. Et que si il y a des personnes qui ont eu des épreuves, qu'Allah Rabbul Izzah, dans ce mois béni, Rahman Rahim, de sa clémence, guide les cœurs et ramène les personnes éloignées, les ramène, Allahumma Amin, vers le droit chemin. Et c'est la demande de ta vie, que si tu meurs de ce droit chemin avec la ilaha illallah, tu as garanti du Jannah. Donc ce que tu demandes, Ihdina, fais-le avec motivation. Réalise que c'est peut-être ta dernière salat et c'est ta demande la plus simple. Quand tu fais une rakat, tu ne sais pas si tu seras vivant dans la seconde rakat. Oui ou non? C'est une réalité. Et donc quand tu demandes Ihdina salat al-mustaqim, fais comme si c'était la dernière fois que tu demandes, ya Allah, guide-moi et que je reste dans le droit chemin dans ton adoration et que tu sois satisfait de moi jusqu'à ma mort. Hatta wa'abud rabbaka hatta. Jusqu'à commenter les savants jusqu'à ce que la mort arrive, que tu restes dans le ibadah. C'est le doua le plus important pour un mu'min. Salat al-ladin al-amta alayhim. Et ghayr al-maghdoubi alayhim al-dallin. Je donne protection contre la déviance, contre l'ignorance, l'arrogance, contre tout ce qui a détourné les gens du droit chemin. Qu'Allah nous protège de cette déviance. Ceux qui ont abandonné le din, ceux qui ont abandonné le ramadan, comme a kutiba al-ladin min qablikum. Mais ils sont où? Ceux qui ont eu le jeûne avant nous, mais ils ne l'ont plus. Ceux qui ont quitté le droit chemin, qu'Allah nous protège. Et donc on demande Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Et à la fin, on dit quoi? Amin. Ça veut dire quoi? Amin. Istajib ya Rabb. Amin, c'est important. C'est-à-dire, oh Allah, accepte. C'est comme on dit, Rabbana, taqabbal minna. De manière, Allah accepte. Et le prophète dit que man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, ghufira lahuma taqaddama min dhanbi. Réalise que quand tu dis Amin, après, ce sont les madhab, chez les Ahnaf, à voix basse, chez les Maliki, Shawafi'i, Imam Ahmad, à voix haute. Selon notre école, quand tu dis Amin, ce amal, si ton Amin correspond au Amin des anges, tout ce que tu as comme péché dans ton livret d'action est pendé. Là, tu réalises l'histoire du fleuve qui te lave 5 fois par jour. Tu te rends compte comment Allah Salah nous purifie. Les Khouan et Filan, on va s'arrêter là. Et je m'excuse pour ce dépassement. Mais par ce sacrifice, Restez assis 1h30. Moi, je suis bien installé, mashallah. Vous êtes assis, vous avez donné de votre temps. On est fatigué, on a faim, on manque de sommeil. Pourquoi on s'est déplacé? On est venu parce que on a eu envie d'apprendre notre salat. Comment est-ce qu'on peut créer un cheminement vers Allah, un cheminement spirituel correct par le biais de la salat? Qu'Allah, Rabbul Izzat, a sa clémence. Et ensuite, par notre sacrifice, qu'Allah ouvre nos poitrines, Allah ouvre nos cœurs, qu'Allah déverse de nos cœurs sa rahma, sa clémence, son amour, sa khashia, la crainte d'Allah pénètre nos cœurs et nous permet d'organiser notre vie. Et qu'Allah nous donne la possibilité qu'à chaque fois qu'on se connecte à lui par la salat, on arrive vraiment à créer cette connexion, que chaque takbir, qu'on prenne conscience de chaque position de la salat et que ces lectures nous enrichissent et que ça nous permet, inchallah, d'atteindre de hauts degrés et que cette salat atteint son objectif. Celui qui trouve le verset qui parle de l'objectif de la salat, alhamdulillah, avec ça on coule, tu vois, tout le monde continue. Quel est l'objectif final de la salat? C'est-à-dire, si tu réunis les trois aspects qu'on a dit en introduction et que tu as cette dévotion qu'on a essayé un peu d'expliquer, qu'on a pu faire deux points, si tu as réussi à développer cette salat kamil, l'objectif final c'est quoi? Non, le verset. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, subhanallah. La prière, la salat, éloigne du turpitude et du blâmable. Et quand j'avais dit tout à l'heure, celui qui a fait salat, il dit, mais qu'est-ce que ça a changé de ma vie? C'est parce que la salat n'était peut-être pas complète. Que lui, celui qui a fait la salat, ça l'éloigne du turpitude et du blâmable. Ça, c'est le qasd al-a'zam, l'objectif final. Que ta salat te permet de vraiment de faire un break avec les péchés. Tu arrives à t'en éloigner totalement. Parce que quand tu étais debout, tu ressentais des choses tellement magnifiques. Et ton cœur reste dans cette position de soumission envers Allah. Même en dehors de la salat, c'était la vie des sahaba, c'était leur vécu, c'était leur niveau de iman. Wa ma tawfiqi illa billah, qu'Allah nous accorde une partie de ces qualités. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma, wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et nos sincères remerciements au président de la mosquée du tampon, le comité, notre cher Amir Fan et ceux qui nous ont donné cette invitation. C'est vraiment un grand honneur que d'être avec vous et d'essayer d'apprendre un peu la religion. Qu'Allah nous accepte et comme Allah nous a réunis dans cette masjid, qu'Allah nous réunit un jour, les Yawm al-Jum'ah, les vendredis, lorsque les Ahlul Jannah vont rendre visite à Allah et ils vont voir, vont contempler la beauté d'Allah Azza wa Jal, et ensuite ils se retrouvent entre eux, les gens de différents degrés du paradis, ils vont se retrouver, ils vont discuter et ils vont se rappeler des Ayyam al-Dunya. Hadith est magnifique ça. Le hadith est magnifique, on démarre pas à notre sujet. Hein. Le hadith est magnifique et il est stipulé qu'ils vont se rappeler « Hal ta'alam, tu te souviens quand est-ce qu'Allah nous a pardonné ?» Tu te souviens quand est-ce qu'Allah nous a accepté? Et Allah va mettre cette connaissance dans le cœur de chaque personne. On va se souvenir quand est-ce qu'on a obtenu le pardon d'Allah. Inch'Allah, on se retrouvera dans le Jannah. L'année prochaine et tout, bien sûr, hein, on continue. Allah donne longue vie, ta'a. Mais qu'un jour, quand on se réunit régulièrement, qu'on soit un jour de le paradis réuni, en train de parler quand est-ce qu'Allah nous a agréé, il nous a accepté. C'était à quelle occasion des actes. Allah khair, ma tawfiq illa billah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair.